Bienvenue dans On The Verge, le podcast de la sexualité masculine. Voici l'épisode 59 avec Gabriel. C'est un homme attachant, résilient et incroyablement optimiste malgré les épreuves traversées que vous allez rencontrer par le biais de mon micro dans quelques instants. Gabriel, 44 ans, raconte son histoire, son désert émotionnel et sexuel jusqu'à la perte de sa virginité avec une prostituée vers 20 ans, ne sachant pas comment sortir de cette situation qu'il pensait alors inextricable. Quelques rencontres vont parsemer sa vie affective, mais pas grand-chose de concret et encore moins de sexuel. Gabriel a l'impression de ne pas savoir faire et de ne pas capter les codes de la relation à deux. Puis la rencontre avec celle qui deviendra sa femme et la mère de ses enfants, dont son aîné qui déclare une maladie dans la petite enfance, un véritable tsunami dans leur début de vie de jeunes parents. Dès le départ avec cette femme, une relation complexe et peu lumineuse s'instaure. Gabriel raconte avec pudeur et délicatesse la lente descente aux enfers vers une relation toxique et violente qui se conclura par l'explosion de son couple et de son foyer. Des petites réflexions et piques verbales jusqu'à la violence physique qu'il va subir, Gabriel a vécu l'impensable. Il était important pour lui d'expliquer à ce micro la difficulté d'être un homme battu face à la justice, tous les efforts déployés, le travail sur lui-même qu'il a fait pour obtenir la garde de ses filles. Dans cet épisode, il est question de solitude, de rapport à l'autre, à soi, de la pression familiale, de sa place dans la famille, du secret de famille.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
De désir d'enfant, de paternité, de reconstruction. C'est un échange riche et dense qui a duré très longtemps, environ 4 heures. Et je vous avoue que le montage a été très compliqué, car vous le comprendrez assez vite, Gabriel est bavard et nourrit son propos de beaucoup, beaucoup de détails. Et surtout, il avait un immense besoin de parler. Comme à votre habitude, chers auditeurs et auditrices, merci de rester ouverts, ouvertes à cette parole et de l'accueillir avec bienveillance. Très curieuse de connaître votre avis sur ce témoignage et n'hésitez vraiment pas à venir en discuter sur Instagram ou même par mail. Et merci de bien consulter les trigger warnings qui sont dans la note qui accompagne cet épisode. Il y a des passages qui sont vraiment compliqués et très douloureux à écouter. Donc merci d'être vigilant. Je vous souhaite une excellente écoute. Pour ce nouvel épisode, je suis en face de Gabriel, 44 ans. Salut Gabriel.
Bonjour.
Ça va ?
Très bien, toi ?
Super. On a fait ce que tu as défini comme une petite douche spirituelle avant. On a pris le temps un peu de se poser, voilà, donc c'était très agréable. Gabriel, tu me disais que tu connaissais le podcast, donc je vais te poser la question que je pose à tous mes invités. Quel est ton tout premier souvenir lié à la sexualité, à l'érotisme qui te revient ?
Alors ça, c'est pas forcément... Je m'attendais à cette question. C'est pas forcément évident. Je suis pas sûr que ça. Tout dépend ce qu'on met dans l'érotisme, voilà. La sexualité, moi je dirais plus le premier souvenir que j'ai de désir ou de point avec les autres, c'est quand j'étais en maternelle, où je me souviens avoir dit que je voulais me marier avec Cybelle. Et qui était noire et qui je voulais avoir 10 enfants blancs et noirs. Voilà. Et donc ça, je pense que c'est la première relation à l'autre amoureuse, entre guillemets.
On parlait de librement de sexualité chez toi ?
Non.
Non.
Ah non, mais pas du tout. Alors...
Comment tu l'expliques ?
Mais en fait, je ne me suis pas expliqué pendant très longtemps. C'est-à-dire que à la maison, mais je ne voyais pas de... Donc mes parents sont mariés, sont toujours mariés, j'ai toujours... Mais je les ai rarement vus avoir des gestes de s'embrasser, ce genre de choses. Même s'ils sont... Il y a beaucoup de tendresse, d'attention, mais pas de sexualité.
Parce que là, on a 50 ans de mariage,
au moins. On est 45 ans de mariage.
D'accord.
Je sais très bien parce que j'étais présent. Non, c'est quelque chose de tabou, je dirais presque. Et c'est quelque chose que déjà, on protège les enfants de tout ça. Et c'est vraiment comme ça que je le
Que ouais, tu l'expliques aujourd'hui ?
Que je le percevais. Parce que j'ai appris des choses plus tard.
D'accord.
Et ça m'a permis de comprendre un certain nombre de choses.
Voilà. Ok, je comprends.
Mais pour répondre vraiment à ta question, donc non, il y avait... C'est... Même aujourd'hui, c'est un sujet... dont on ne parle pas, quoi.
D'accord. Ouais. Tu grandis.
Je me souviens, j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de filles finalement qui étaient venues vers moi, voilà, que j'avais
les
pas
fameux signaux que tu n'avais.
Ouais,
vu.
voilà.
Quand on refait l'histoire, souvent on se dit mais c'était donc là et ouais, j'aurais dû faire ça.
Mais en fait, ça, je pourrais t'en ressortir une flopée sur les différents âges, je crois. J'étais toujours très attiré par les filles. Voilà. Mmh. Par le visage, beaucoup.
Donc tu arrives gentiment au collège, à cette période délicieuse qu'est la pré-puberté et l'adolescence qui pointe. Comment se passe cette entrée-là, sachant qu'effectivement tu n'es pas très accompagnée à la maison ?
Pas du tout.
Comment voilà, tu vas arriver ?
Alors, j'ai eu deux temps en fait. Quand j'étais enfant, alors moi j'ai pas précisé, hein, je viens du Portugal, mais ça n'a pas trop d'impact, à part un peu une double culture, un petit peu. Ma mère est française, mon père portugais, voilà. Et en cinquième, j'ai changé dans un endroit un petit peu plus banlieue, un peu plus... Il y avait une petite cité à côté, tout ça. Et autant j'étais un peu dans un univers un petit peu bourgeois sur Asnières, là, c'était un peu plus dévergondé. Et
oui, il y a plus de mixité sociale,
ouais,
plus de monde.
Ouais. Et le choc a été dur. Hein. Que je dirais que moi, j'étais un petit peu sur Asnières. Hein. On était un peu encore dans l'enfance. Mm-hmm. J'étais dans le moule avec les autres, quoi. Et là, je suis arrivé en banlieue. Et alors là, j'étais déconnecté parce qu'ils étaient à des années de lumière de moi, en fait. Ils étaient beaucoup plus...
Avancés, j'imagine.
Avancés, ouais. Beaucoup plus avancés. J'étais un peu l'intello, le premier classe. Donc forcément... mais en fait, j'avais du mal un peu à m'intégrer, d'autant plus que je n'avais pas eu cette année de sixième où tout le monde fait
connaissance. Se connaît, bien sûr.
Ouais. Se connaît. Et donc moi, j'ai été propulsé comme ça, très dur, parce que c'était beaucoup en mode d'insulte, un peu en mode celui qui est le plus fort, qui se montre un peu le côté de testostérone.
Bien sûr.
Voilà. Et ça,
le combat de coq.
Au combat de coq. Et très difficile pour moi parce que je n'étais pas du tout dedans.
Tu n'arrivais pas à trouver ta place ?
Ouais, un peu difficile.
Et comment tu commences ta puberté, toi ? Comment ça se passe à ce moment-là ? Parce que ça joue aussi beaucoup à ces âges-là, celui qui se développe plus,
je pense
qui grandit.
Au début, j'occulte un peu cette partie-là, quoi. Je suis pas trop dedans. Mm-hmm. Je pense qu'il y a autre chose aussi. Ma mère m'a appris un peu à être un bon garçon. Je pense qu'elle m'a appris aussi à faire attention aux autres, à la femme aussi, je pense, à considérer.
Donc tu continues cette période de collège. Quand va commencer justement ta puberté et ce lien qui va se faire un peu plus charnel avec les filles ? Tu t'en rappelles ?
Oula. Alors, je vais déjà peut-être parler le lien avec moi-même, déjà.
Bien sûr.
Parce que alors le lien avec les filles, j'ai toujours eu envie de.
Ça d'aller... Elles t'ont toujours intéressé.
Ouais, toujours. Ouais, toujours, toujours fasciné. Mais presque, il y avait à la fois la peur de se prendre un râteau, je crois qu'on est tous là.
L'humiliation.
Voilà.
Pure, ouais.
Mais je crois que plus que ça, la peur d'être considéré comme quelqu'un qui ne respecte pas la femme.
D'accord.
Et même la peur de gêner l'autre. D'être lourd ou gênant, de déranger, ouais, de déranger.
Ouais, okay, je pense que tu les avais vraiment mis sur un piédestal, du coup.
Ouais, il y a quelque, ouais.
Je comprends.
Oui, oui, mm-hmm. Et après, mais bon, mais oui, il y avait de ça.
Et donc ton rapport à toi,
ouais,
qui grandit.
Ben en fait, on a le corps, on commence, je pense, à se rendre compte qu'il y a des choses bizarres qui se passent dans le corps. C'est un peu normal. Je pense que ça commençait un peu par des films qu'on voit, tu vois, il y a des scènes dans des films, on voit des choses un peu bizarres qui se passent, entre guillemets.
Ça chatouille un peu,
tu vois que ton corps réagit, tout ça. Je ne sais pas comment ça a avancé, je n'ai pas forcément toutes les étapes en tête, mais je me souviens des catalogues La Redoute, je pense qu'on est les nombreux être passés
par
là.
Cette génération s'en rappelle.
Voilà. je me souviens aussi, à un moment donné, avoir fait du découpage de catalogue, de collecter ça dans un petit carnet.
Donc les pages de lingerie, hein, bien sûr.
Voilà, oui, de noter, mettre des petits cœurs, des trucs comme ça, voilà. Voilà
donc, adorable.
Je me souviens aussi avec un...
Premiers émois sur le papier glacé.
Voilà, genre de choses.
Et si tu avais des questions, tu les posais à qui ?
À personne.
Ok.
Ouais.
Et c'est une génération, je rappelle, il n'y a pas Internet.
Il n'y a pas Internet.
Les livres sont, il faut, enfin, ils sont pas faciles d'accès. Enfin,
non,
il faut...
y a rien. Donc en fait, tu te. Alors il y a le cours d'éducation
sexuelle à l'école.
Sexuelle à la Sutnat, ouais. Donc voilà.
Qui est basé sur la procréation, c'est tout.
Voilà, donc, mais sinon rien. Je me souviens de la quatrième qui a été beaucoup plus difficile. Je suis vraiment identifié comme le premier, j'ai les lunettes là. Mm-hmm. Et je commence même à me faire harceler à l'école en fait, un peu tous les jours. Donc là, compliqué. Quand tu te fais baffer un peu tous les jours, tout ça, c'est pas très.
T'en parles un peu à
j'en
tes
parle
parents
pas, j'en parle pas. Et en fait, un jour, c'est. Ma mère qui me demande pourquoi j'ai une trace dans le cou. Alors, c'était pas non plus. J'étais pas non plus frappé tous les jours, machin. C'est parce qu'on voit pas, des fois qu'on parle de choses là, les gens se rendent pas forcément compte qu'il y a différents degrés. Mais c'était un petit peu, temps. Mais sauf
oui,
que.
Mais du harcèlement et du harcèlement.
Sauf que. C'est pas non plus. Voilà, j'en pleurais pas, j'étais pas non plus. T'es pas bien en fait.
Oui, ça, voilà. Ça suffit pour.
C'est gênant quoi. Bien voilà, sûr. C'est gênant. Voilà. Après, je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus. Où c'est des choses beaucoup plus graves.
Mais t'es pas obligé,
j'étais pas dans à ce niveau-là. Voilà.
Oui, mais ne minimise pas non plus ce qui t'est arrivé. C'est douloureux le harcèlement, même si c'est un jour, deux jours et une petite tape, c'est quand même douloureux et difficile.
Et donc, c'est ma mère qui a détecté que j'avais une trace dans le cou. Et du coup, on en a parlé au.
T'as lâché.
Et j'ai lâché. Mais je disais pas. En fait, c'est plus parce que ça se déroulait à l'école et je voyais pas forcément de conséquences plus que ça, quoi. C'est les histoires comme quelqu'un, il t'a dit quelque chose, il t'a insulté une fois, ben tu vas pas non plus. Voilà, on s'en rend pas forcément compte.
C'est bien quand même qu'aujourd'hui la parole se libère là-dessus et qu'on invite les adolescents à en parler.
Ouais. Non, mais c'est vrai que les gens autour ne s'en rendent pas compte aussi. Parce qu'il y en a un par exemple qui m'a une fois. Parce que les autres m'embêtaient, c'était bien dans sûr. Le jeu.
La tête de
il faisait un. Moi, je suis pas très grand comme tu peux le voir. donc j'étais pas très grand non plus à l'époque. Et il faisait déjà 1m80. Il m'a foncé dessus, il m'a explosé sur voilà, mais dans le jeu. Et après, plus tard, quand il a appris ce qui se passait, il est venu me s'excuser et tout ça. Et moi, j'ai fait la part des choses parce que je comprenais aussi que c'était pas. Il y en a qui étaient vraiment en train m'embêter. Et d'autres, c'est dans le mouvement, voilà. Et c'est pas pareil, voilà. Après, ça m'a permis d'être un peu plus intégré parce que finalement, le fait d'avoir parlé et que les gens se sont rendus compte qu'il y avait des soucis, après, il y avait les deux camps. Il y a ceux qui disent « Mais comment ça se fait ? Il a dénoncé, c'est dégueulasse. » Puis d'autres qui se disent « Ah ouais, mais ça se fait pas si t'es nul. » Et j'étais intégré un petit peu plus, un petit peu invité à quelques anniversaires, machin. Et c'est là où il y a eu quelques... je pensais, parce que forcément, en venant ici, tu essaies de faire une petite rétrospective d'après-midi entre mecs où des fois il se passait des cassettes, des trucs comme ça.
Des VHS.
Mais moi, ça ne me correspondait pas du tout. Parce que
donc, c'est-à-dire que les garçons se retrouvaient et.
Chez un de nos voisins. Et où des fois il y avait je crois que le père avait des VHS, il y avait aussi quelques livres et tout ça. Et la maison était assez grande. Et c'était un peu le point de chute. Et c'était pas très classe. Mais en fait, c'est pas que ça me dégoûte, c'est que ça ne me correspondait pas surtout.
Ouais.
C'est plus ça qui me gênait. Et en fait, un petit peu la difficulté à cet âge-là, tu fais un petit peu avec ce qu'il y a. Moi, je jouais beaucoup aux jeux vidéo à cette époque, je pense un petit peu comme... Et j'avais du mal à m'intégrer. Et c'était un peu... c'est qui prenait Gabriel qui était le... C'est qui ? Oh non, pas Gabriel, parce que j'étais l'intello. Et donc, il fallait un petit peu prendre sur soi. Mais bon, après, les choses ont pas mal évolué. Et j'ai bien fait de passer cette stade-là, parce que après, tu vois, je me suis beaucoup plus intégré. C'est là que je me suis fait des amis.
Mm-hmm.
Et j'en ai un que de l'époque de quatrième qui est encore...
Dans ta vie.
Qui est encore dans ma vie, quoi. Donc c'est mon meilleur copain depuis longtemps.
Ouais. Et donc tu continues ton avancée dans l'adolescence en t'accrochant, en essayant effectivement de trouver ta place.
Et les filles, c'est distant pour moi.
C'est loin.
Ouais, c'est loin. Tout mon... Je n'arrive pas à casser ce... à aller faire le pas.
Mm-hmm.
Et je suis vraiment en distance de tout ça, quoi.
Okay.
Ce qui ne veut pas dire qu'on n'en parle pas avec les copains, des choses comme ça, mais donc je ne suis pas dans les groupes où on va forcément vers les filles. Arrive le lycée, Donc mm-hmm. lycée, là, je fais un peu plus, je tente un peu plus. Mm-hmm. Mais ça ne marche pas plus. Et je me focalise pas forcément là-dessus, voilà.
Mais t'as des copines quand même, enfin de amicales.
Alors j'ai franchement un petit peu en seconde parce que je m'en souviens peut-être d'une qui fait le chemin avec nous, mais je vois qu'elle est pas intéressée, quoi, donc je l'embête pas. Ça c'est pour moi, je pense que c'est le pire. Mmh. Je préfère ne pas faire qu'embêter.
D'accord,
je comprends. Je me souviens être tombé sur change de classe sur une nana. Je la vois, c'est...
Le flash.
Mais 2 ans dans ma classe, mais rien. Je tentais aussi discuter avec elle. Je me souviens, toutes les... Ma maman, elle souvent me donnait des petits trucs pour manger. Parce qu'elle est toujours soucieuse que... Oui.
Le petit coup de barre, etc.
Voilà. Alors, c'est vrai que je n'ai pas précisé, mais quand j'étais... je suis né avec un problème cardiaque. Et donc, un trou dans le cœur qui faisait que... Alors, je ne l'ai plus aujourd'hui, mais qui faisait que le sang propre et sale se mélangeaient. Et quand j'étais enfant, on me disait qu'il ne fallait pas que je me fatigue, sinon je risquais de mourir.
Ah oui. Donc, il ne fallait pas que ton corps fonctionne trop de sang.
Voilà, et donc on peut comprendre aussi pourquoi j'étais un peu hyper protégé.
D'accord, l'inquiétude
voilà,
des parents.
Ça explique. Voilà, et ça explique aussi.
Tu t'es fait du coup opérer ?
Alors, je ne me suis pas du tout fait opérer. J'ai eu la chance, en fait, que donc c'est ce qu'on appelle une communication interventriculaire. Elle a pas changé de taille, mais mon cœur a grossi. Et au bout d'un moment, il s'est même fermé. À ma vingtaine, on m'a dit que je pouvais faire tout ce que je voulais comme sport. Donc le jour où on m'a dit ça, c'était là.
Ah oui, mais effectivement.
C'était la fête. Alors que ma sœur, donc j'ai pas précisé, j'ai une sœur qui est née la même année que moi. Ma sœur, au contraire, tu vois, elle est prof de sport aujourd'hui. Donc elle très portée sur le côté sportif. Donc,
oui, et puis pas d'interdit.
Non, pas d'interdit. Autant, tu vois, je te disais que j'allais pas vers les filles, mais autant c'est moi qui parlais pas tout le temps, qui discutais, oui. Qui avait pas de...
Qui était plus extraverti.
Ouais, j'avais pas de problème, en fait, pour parler. J'étais pas forcément... mais timide vis-à-vis des filles. Alors là, ça, horrible. Ouais. Voilà.
Les filles.
Voilà, ça, c'était la difficulté. Et donc, cette fameuse Emmanuelle, pour dire, voilà, pour donner son prénom. Rousse, à les yeux verts, voilà. Et donc... J'ai discuté avec elle, donc j'avais toujours en train de me taxer en fait, mais ma barre de Twix de Mars et tout ça, mais niette, pas plus que ça. Et moi, de toute façon, pour moi, c'était la fille intouchable.
Oui,
donc,
c'est ça.
Voilà.
Même pas à t'imaginer que c'était possible.
Non,
que...
non, non. Et je pense que. Alors là, pour le coup, c'était pas possible. parce qu'on n'était pas dans les mêmes univers, mais d'une manière générale, j'avais l'impression de ne pas être dans le. Je voyais même pas comment rentrer dans le monde d'être avec quelqu'un, je pense.
D'accord. Voilà.
Et plus tard, tu vois, je me suis rendu compte qu'il y avait une autre fille qui discutait régulièrement avec moi. Et moi,
Tu voyais pas.
Je voyais même pas.
Et ça, c'est...
Mais ça, je suis pas le seul.
Je pense que, ouais, t'es pas le seul. Et ça, c'est incroyable. Quand on se focalise sur quelqu'un, on ne voit pas autour de soi. Et c'est fou, hein. Et donc, tu parlais d'une première terminale.
Ouais, première terminale... Oui, ça discute plus avec les gens quand même.
Plus de liberté aussi, j'imagine, un peu plus de liberté.
Un peu plus de liberté. Je découvre à l'époque les jeux de rôle. J'adore, voilà. Jeux de rôle,
oui. Oh, oui, les jeux de rôle. Oui.
Ah, pour ceux qui écoutent.
Pas les jeux de rôle. Les jeux de rôle, grandeur nature ou
alors,
à carte.
Alors, sur table, en fait, en gros, si vous voyez un film d'Agatha Christie, vous imaginez qu'au lieu que l'histoire soit toute écrite, vous incarnez l'un des personnages, un des protagonistes. Il y a au début de l'histoire, il y a une intrigue qui se passe et qui a été préparée par ce qu'on appelle un meneur de jeu. Et les joueurs vont interpréter les différents rôles et vont essayer de résoudre l'énigme, d'avancer dans l'histoire en parlant, en fait, par rapport à ce que va faire leur personnage. Et du coup le meneur de jeu essaie de faire l'interaction sur le reste de l'univers et on va essayer de résoudre l'énigme, l'enquête ou une aventure, ça peut être un Indiana Jones, ça peut être un Seigneur des Anneaux, tout ce que vous voulez, mais l'idée c'est de construire une histoire à plusieurs, voilà. Et donc ça c'est je suis rentré en fait à cette époque là dans un club de jeu, mais évidemment qui dit club de jeu dit quasiment que des garçons,
que des mecs,
voilà. Donc c'est
ce qui est club d'échecs, club de jeu, club de
jeux vidéo, c'est, ouais. Voilà, c'est que, ouais. Quasiment que des mecs. Effectivement, quand je suis basculé un peu plus sur les soirées enquêtes, les grandes natures, là t'as un peu plus,
oui,
de filles,
t'as un peu plus de nanas, ouais.
T'as plus de nanas.
Donc terminal toujours
terminal, non. Et puis alors je suis en scientifique, qu'ils appellent à voie royale, hein, classe prépa, tout ça. Mais qui dit classe prépa, Mais tu rentres au couvent, quoi, en fait.
Bah, c'est ça, ce que j'allais te dire, voie royale, entre guillemets, fermée, voilà. Et chiante.
Tu rentres au couvent, un peu au couvent, entre guillemets. Ah, alors, ça. Entre guillemets,
tu
parce que...
Tu fais Mathsup, Mathsup après.
Ouais, Mathsup, Mathsup, c'est en gros la sup, je m'octroyais une heure de loisirs par semaine.
Que... Vie sociale, voilà. Néant.
Néant. Alors, oui, non, alors, mine de rien... Avance entre guillemets. On commence à prendre les trains, tout ça, pour se déplacer, pour parce qu'on n'est plus dans la même ville. Pour comme moi, je suis plus dans la même ville pour aller. Je me souviens une fille qui, on a un petit groupe qui se constitue dans le train et qui est plutôt mignonne, de la classe et tout. Mais bon, pareil, je sens que voilà. Et il y en a un qui ose lui dire encore, mais qui réussit à sortir avec elle, mais qui se sert en fait du fait que j'étais intéressé pour se mettre en avant. Donc ça, j'ai pas trop apprécié, mais bon, voilà, mais c'est pas grave.
Tous les coups sont permis.
Tous les coups sont permis. Et je me fais une petite soirée aussi à l'époque, revival avec les anciens copains de terminale. Et là, la fameuse Emmanuelle qui est là. Là où je suis dégoûté, c'est que le premier truc qu'elle raconte à tout le monde, « Ah, vous avez vu, Gabriel, il commence à perdre ses cheveux. » Parce que comme tu peux voir, voilà. Et donc, forcément... Donc là, je suis super content.
Petits cheveux...
Voilà.
Timide.
Et...
Petit arrêt. Tu as commencé à perdre tes cheveux à 20 ans.
Là, elle s'en rend compte, parce que ça faisait quelques mois que les gens ne sont pas vus. Et moi, j'ai dû commencer à perdre mes cheveux quand j'étais en première.
Comment tu le vis, ça? Parce que le cheveu, j'en ai parlé tellement avec Fabrice Florent, ce chauve si connu. Les cheveux chez les hommes, les
pères, en fait,
les cheveux, c'est compliqué.
Mon père déjà est chauve, un petit, donc une calvitie. En fait, je pense que comme je ne vais pas trop vers la femme, vers l'autre, je crois que j'avais fait abstraction de mon corps aussi.
D'accord, de ton apparence.
Ouais, mon apparence, je pense que pour moi, ça devait être secondaire.
D'accord.
C'est pas ça, ça fait pas partie des valeurs nobles, des choses, voilà. Un peu idiot, je pense, quelque part, mais voilà. Je détestais, ça, j'ai pas parlé, je détestais aller acheter des vêtements, mais c'est la corvée, quoi, voilà. Et avec côté, c'était une perte de temps.
Parce que finalement, ton physique et comment tu te sapais, c'était pas un sujet.
Ouais, mais je pense, c'était fonctionnel. De toute façon, je me considérais plutôt moche. Je me considère moche, je pense. Je pourrais pas intéresser une fille.
Par ton physique.
Ouais.
Et tu penses que c'est pour ça que tu as développé autant l'intellect ?
Alors, la réflexion m'intéresse énormément. Mmh. Alors, je suis quelqu'un qui adore réfléchir. J'adore me poser des problèmes. Ça me captivait, quoi.
Parce que chez toi, l'intelligence est une valeur noble.
Pas que ça. C'est-à-dire que quand j'étais enfant, j'avais tendance à vouloir discuter avec les adultes.
D'accord.
Le reste m'ennuyait, quoi. Et même, des fois, la conversation de certains adultes m'ennuyait, quoi. Même gamin, déjà, je pouvais avoir certaines réflexions, alors limitées, même sur la politique, qui disaient qu'il y a certains adultes qui, je voyais, qui n'étaient pas dans la capacité d'y aller.
Mais après, il y a tellement de formes d'intelligence.
Oui.
C'est ça qui est intéressant.
Il y a différents domaines, en fait, différentes réflexions. Moi, je crois que c'est en CP. J'ai eu CP ou CE1. J'ai eu la chance de faire partie des premiers programmes des programmes scolaires où on introduisait l'informatique très tôt.
Ah oui.
Et je suis tombé tout de suite amoureux. Je suis tout de suite tombé amoureux. En CE2, je faisais des rosas sur ordinateur. Après, j'ai fait des soleils, des machins. J'étais déjà en train de faire de la programmation. Et je me souviens à l'époque où j'avais été à l'hôpital parce que j'ai chopé un sale virus. On croyait que j'avais une méningite. Donc mes parents étaient. Avec ce que je t'ai raconté, tu peux voir. J'avais demandé à mon père un ordinateur. Et il m'avait dit oui, quoi, parce que j'ai eu après en cinquième quand même.
Pour revenir...
À côté de ça, bon, il y a une ancienne copine de terminale encore qui est... Je sais pas, on commence à... Parce que je pense que c'est pas facile la prépa pour elle, pour moi aussi. Et je sais pas, on se rapproche et moi, je crois qu'il y a quelque chose. Et donc, je veux l'inviter même au ciné et tout ça. Et non, elle est déjà quelqu'un. Ok, donc je me prends le vent, voilà. Et comme ça. Et moi, je vois que ça va pas et que ça avance pas beaucoup. Donc j'arrive.
Et en parallèle de tout ça, pardon, je t'ai pas posé la question, mais est-ce que toi, t'avais commencé déjà la masturbation?
Ouais,
est-ce que t'étais
oui.
déjà,
oui,
tu
oui,
vois,
oui,
on n'a
oui.
pas parlé
Oui, alors, c'est vrai que je parle pas d'une chose. C'est vrai que tu as parlé, en fait, il y a une chose que j'ai pas... En fait, je me suis trompé tout à l'heure quand t'as dit qu'est-ce qui m'éduque et comment j'apprends les choses. Il y a une chose qui a rythmé beaucoup ma vie à cette période-là, c'est que j'écoute beaucoup la radio.
Ah.
Doc Edifool.
Tu fais ce que
Doc Edifool, entre autres.
Cette fameuse génération.
Ouais. Et alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'à l'époque, on avait une radio. C'était Fun Radio, je crois.
C'était Skyrock ?
Non, je crois que c'était Fun.
C'était Max sur Fun ?
Ah, j'écoutais les deux, de toute façon.
Ah, Max, moi, j'étais fan.
Alors, j'écoutais les deux. Bah, à l'époque, les gens, ils appelaient pour, pour parler un peu tout ça.
De toute leur histoire de
vie. Et du coup, j'écoutais énormément. Déjà, parce que j'adore écouter de la musique. Que par la radio, j'ai appris beaucoup de choses, beaucoup de réflexions. Et je me souviens de quelques idées avec des gants ou des trucs comme ça. Voilà.
Les
coussins aussi, des trucs comme ça, voilà. Et donc, effectivement, mon corps, oui, il n'y a pas de problème. Donc, effectivement, avec des supports, les fameux catalogues de la Redoute ou d'autres, voilà. Ouais. Il y a aussi, je me souviens du film, le fameux film sur M6, hein, le dimanche soir, Et donc, moi, je vois à cette époque. C'est un peu compliqué pour moi quand même parce que je vois que ça tourne en rond, que ça avance pas.
Vois tes copains s'émanciper aussi.
Les très proches. Donc je continue à aller au club de jeu parce que c'est à ce moment-là où je me suis vraiment constitué mon groupe d'amis et j'ai des amis. Des amis que j'ai encore aujourd'hui. Quoi, vraiment ma bande de copains. Voilà. Et vraiment une bande de copains très fort.
La MIFA quoi.
Non
pardon, je parle en verlan. La MIFA, la famille.
Ouais, tout à fait. Non c'est ça. Ouais, tout à fait.
Le sang.
Ouais. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un groupe qui s'est constitué. C'est mes frangins, quoi.
Voilà.
Alors, on parle pas trop de sexe, c'est pas nos sujets. On peut parler de famille, on peut parler de difficultés,
Ok.
Ils sont là.
Et donc.
Cette période difficile, ça va être choqué, hein. Moi, je.
Rien ne me choque.
Il arrive ça aussi, c'est quelque chose que les générations récentes vont pas forcément connaître. Arrive l'appel pour l'armée.
Ah oui, tu fais partie de la génération qui allait encore à l'armée.
Ouais, et appelle ces fameux 3 jours. Et donc j'arrive sur c'est 3 jours qui durent en fait qu'une demi-journée ou une journée, hein, la réalité. Donc j'ai été exempté à cause de mon problème cardiaque. Et je rentre, et du coup, c'est pas la même époque, on n'a pas le téléphone et tout ça. Et en fait, du coup, j'avais une sorte de liberté. Personne ne m'attendait. Alors j'ai fait une chose qui peut peut-être choquer, mais moi, il fallait que je sorte de ce vase clos. Et je ne savais pas quoi faire. Et. J'étais dans une des rues réputées de Paris et j'étais voir une prostituée.
Donc tu étais Faubourg Saint-Denis ?
Ouais.
Juste à côté. Qu'est-ce qui t'a ? C'est ce sentiment de liberté où personne t'attendait, tu t'es dit ?
Ouais, en fait, mais je pense que j'avais plus ou moins prévu, parce que j'avais pris déjà de l'argent sur moi.
Ok.
Prévu sans prévoir, en fait.
C'était maintenant, cette fenêtre.
Cette fenêtre, voilà.
Et donc tu vas Faubourg Saint-Denis ?
Je suis Faubourg
Saint-Denis. Comment ça se passe ?
En fait, je suis vraiment pas bien parce que je me sens pas du tout à l'aise dans tout ça. Et en fait, je me fais aborder par les dames parce que les dames abordent directement. Mais moi, je savais pas du tout comment ça se passait. Et en fait, au départ, j'ai tendance à dire non, parce que voilà. Et à un moment donné,
c'était marqué sur ton front.
je pense. Et à un moment donné, je me lâche. Moi, il y en a une que je trouvais pas trop moche, on va dire. pas mon type. Alors pas mon type, alors ça peut être marrant, mais elle était, alors je suis pas du tout black, voilà. Je suis pas bloqué, hein. Mais c'est pas mon. Ça veut pas dire que je peux pas trouver une fille noire avec qui je peux sortir. Hein, que...
Bien sûr.
Mais c'est pas mon attrait premier, voilà. Que je suis plus rousse, comme j'ai dit tout à l'heure. Je me sentais très mal dans cette rue. Et en gros, j'avais l'impression, bon, allez, on y va, quoi.
Il faut y aller maintenant.
Et on y va. C'est glauque, hein, faut dire ce qu'il y a. Hein. C'est glauque et je me sentais mal de le faire. Parce que ça correspond pas non plus à
l'idéal, un peu
à mes valeurs. Non, mais même à mes valeurs. Je ne voyais pas comment sortir de ce trou où j'étais. Je sais pas si c'est le mot.
C'était très drôle. En tout cas, c'était très drôle de sortir.
Mais j'étais vraiment fermé et j'arrivais pas à
cette situation,
à sortir
qui
cette situation
qui te paraissait inextricable.
Ah ouais, j'étais dans des murs en fait. Et comment sortir de ça? Et je dis, mais il fallait comme un électrochoc quoi. Il fallait quelque chose. Donc j'y vais en montre. Alors je me souviens, petite chambre, c'est pas propre. Hein. On sort une petite serviette pour poser le truc, tu te poses la question est-ce que c'est bien propre, il y a bien sûr un préservatif,
la
tout ça.
La réponse est non, ce n'est pas propre.
Mais ça c'est évident, voilà. Donc tu sais pas du tout, évidemment moi je sais pas du tout m'y prendre.
Elle te dit, elle t'explique.
Moi je pense que je lui parle en fait déjà. Quand elle me parle et moi je lui dis tout de suite, que j'ai...
C'est ta première fois.
Ouais, que je suis complètement... Elle le voit tout de suite que je suis perdu, je pense. Je me souviens qu'elle, j'ai pas tous les souvenirs. Je suis pas sûr qu'elle soit déshabillée complètement. Je me souviens de seins, je me souviens de son sexe. Je me souviens d'une qu'elle m'a fait une fellation. Je me souviens que c'était agréable. Voilà. Je me souviens donc du coït. Ouais, il y a du plaisir, mais sans, j'étais pas bien.
Ouais.
Et elle me demande, c'est fini? Et ça n'était pas vraiment. Et au bout d'un moment, je dis ouais, j'ai lâché l'affaire. Et quand je dis lâche l'affaire, et c'était pas vraiment fini. Et voilà.
Oui, mais c'était fait.
Sortir. Voilà. Ouais, c'était fait. Sortir. Je voulais ça.
C'est très drôle.
Voilà. Ouais, non, je m'en rends pas forcément compte. Mais oui, je pense que les je voulais partir du lieu, quoi, en fait. Ouais, ouais. Et finalement, je l'avais fait, mais j'étais pas plus avancé. Il manquait encore toutes les étapes. Et en fait, comme il manquait toutes les étapes de début, ben, je n'étais pas plus avancé.
Et c'est intéressant ce que tu dis. Hein. Ce n'est pas l'acte en lui-même, finalement,
non.
qui
non.
fait
non.
qu'on n'est plus...
Non, pas du tout. Alors, peut-être plus avancé parce que du coup, ça désacralise un peu l'acte.
Mais surtout, je pense qu'on s'enlève une pression. En fait, aussi, tu t'es enlevé une chape de plomb qui fait que tu l'avais fait, entre guillemets, et peut-être que aussi ça te libère d'un petit truc.
Peut-être que... Je ne sais pas si j'ai... Je ne sais pas si j'avais tant la pression de il fallait faire l'acte sexuel. Moi, je pense ce qui me gênait plus, c'était le rapport à l'autre, en fait. Mm-hmm. Le geste, la tendresse, tout ça. Et,
c'est pas là
et
que...
ce qui est fou, c'est quand on regarde, c'est que j'ai un acte sexuel avant d'embrasser une fille.
Ouais, c'est vrai. Parce que j'allais te demander si vous vous étiez embrassé.
Ben non. Mm-mm. Et je pense que, heureusement, quelque part.
Oui.
Parce que pour moi, c'était peut-être plus important.
Ouais, ouais.
Que l'acte sexuel.
Oui, ça aurait faussé les cartes, en tout
ouais,
cas.
Ouais. Mais
après, tu sais qu'il y a beaucoup de prostituées qui, et d'ailleurs de plus en plus, font ce qu'on appelle les girlfriend experience, où tu loues ce service-là, c'est-à-dire que c'est plus tellement le coït et
l'éjaculation,
c'est vraiment l'expérience de jouer la petite amie pendant une heure, où là, pour le coup, on s'embrasse, on se prend dans les bras, qu'est-ce que tu racontes ta journée. Donc, c'est...
Je pense que ça peut être bien.
Ah bah, par exemple, au Japon, tu peux louer les services d'hommes ou de femmes pour faire les petits amis, mais très facilement.
Je pense que ça peut être bien comme palier, en fait. Pas comme palliatif. Je ne sais pas si tu vois la différence.
Complètement.
Parce qu'en gros, quand tu es comme moi, en fait, où tu as cette difficulté, ça peut te permettre à désacraliser un petit peu les choses et peut-être discuter, mais ça dépend vraiment de l'interlocuteur.
Et après, comment tu lances ta vie active sexuelle?
Ben, c'est que ça se lance pas. C'est pour ça que je te dis, je suis dans la main. Alors, bien sûr, ça va se lancer.
Je spoil parce que Gabriel a deux enfants.
Enfin, voilà.
À un moment donné, il s'est passé un truc.
Et en fait, il se passe un truc. Alors oui, tout à fait. Mais finalement, pas si longtemps après, mais c'est pas corrélé directement. On va revenir sur le club de jeux où on fait l'été, des cafés-jeux d'été. Et il se trouve que... pendant l'un des étés, y a une fille qui vient nous accompagner. Mais moi, pas du tout, je ne la capte pas. D'autant plus qu'elle est beaucoup plus jeune que moi. C'est-à-dire que moi, à cette époque, j'ai 22 ans. Et en fait, moi, je la capte pas du tout. Mais on a tendance à se retrouver souvent dans les mêmes pôles, parce qu'il y a plusieurs pôles dans la ville. Et en fait, je n'ai pas vu, mais elle s'est débrouillée pour être régulièrement avec moi. Et donc, elle a 6 ans de moins que moi, quand même. Donc voilà. Mais petite rousse aux yeux verts. Mais je n'avais pas du tout capté. Et petit à petit, bah, à force d'être à côté, tout ça, elle est sympa et tout, je commence à être de plus intéressé.
Tu commences à l'envisager.
Envisager. Le dernier jour, on fait le pot complet, tous ensemble, pour finir le truc. Et elle doit partir en vacances. Et punaise, ça fait plusieurs jours que j'ai réfléchi, mais... Comment je vais essayer de m'approcher de... Mais moi, j'avais rien vu. Hein.
Mais elle est mineure, du coup.
Elle est mineure.
Ouais.
Elle est mineure. J'avais rien vu. Et à un moment donné, je lui dis, en fait. Je lui balance que, ouais, je suis intéressé. J'aimerais bien sortir. Je fais ça de manière très gauche, je crois. J'aimerais bien sortir avec toi ou je sais plus quoi. Je sais même plus ce que je lui dis exactement. Et elle est d'accord. Mais écoute, je sais même plus si on s'est embrassé. Je crois qu'on s'est smaqué à ce moment-là. Pas plus. Et elle part parce que c'est ses parents qui doivent venir la chercher et elle part en vacances, quoi. Donc on ne se voit pas pendant plusieurs semaines. Et j'ai le droit à des lettres d'amour enflammées et tout.
Alors là, toi, tu dois partir.
Alors là, moi, pour moi, dans l'esprit, c'est deux personnes qui sont clean entre elles, filent leur vie jusqu'à la fin des jours. Si les autres, ça ne se passe pas bien, c'est parce qu'ils ne sont pas corrects. Voilà. Ce qui se passe, c'est qu'on commence à sortir un peu ensemble. Sauf que elle est stressée aussi. Il ne faut surtout pas que ses parents soient courants parce que par rapport à la différence d'âge. Et
à ces âges-là, c'est...
Et à ces âges-là. Sauf que ce qu'elle ne sait pas, elle, c'est que moi, j'ai moins d'expérience qu'elle. Il ne s'est rien passé avec elle à part des smacks, hein, je dis. Hein. Mais je crois que ouais, j'ai dû à peine la smacker, pas plus que ça. Et sa mère qui lui avait dit peut-être qu'il avait peut-être invité, prendre un verre et tout ça. Et moi, j'étais complètement à l'ouest. Et ça faisait un mois qu'on était ensemble. Et donc,
oui,
un
donc
mois,
votre intimité était quand même limitée.
Un mois, pour moi, c'est important. Donc à l'époque, je lui avais fait un cadeau avec un petit cœur et tout. Tu vois, très... voilà. Et je crois que peu de temps après, j'ai reçu une autre lettre. Donc moi, super content. Lettre de rupture. Donc là,
ça t'a brisé le cœur.
En fait, ouais, ça m'a vraiment brisé le cœur. Je ne l'ai pas vu venir du tout. Parce que pour moi, bah, c'était génial, ça commençait. Et elle, qui avait vécu déjà d'autres choses avec un autre copain, elle ne comprenait pas. Ce que je comprends, mais moi, je ne voyais pas. Elle voulait surtout pas me parler.
Elle devait être hyper gênée.
Mais c'est parce qu'elle n'était pas à la maturité de le faire aussi. Mais moi, j'étais complètement dévastée.
Ah oui,
j'étais dévastée. Alors, j'étais vraiment accro. Et donc, j'étais pas bien. Et comme on parle de rien à la maison, donc j'en avais pas. Et là, moi, je me renferme un peu aussi. J'étais pas bien. Et c'est à l'époque aussi où Internet commence. Et du coup, mes parents prennent Internet à la maison pour que je puisse aussi travailler.
Aussi, ouais,
commencer à l'époque à discuter sur aller sur les chatrooms, sur le fameux Caramel. Je sais pas si tu connais.
Bien sûr, Caramel.
Et donc sur Caramel où les gens se retrouvaient souvent le soir pour discuter. Les salons par âge ou par différents sujets. Et j'ai passé pas mal de temps. Et je crois que j'avais besoin de parler. Alors pour le coup, je discutais beaucoup avec des filles. Parce que j'ai peut-être ce côté un peu tendre, doux. Et finalement, que les filles aiment bien. Commence aussi finalement à rencontrer des filles. Je me souviens d'une rencontre à la Tour Eiffel. Qui ne fistait pas dit tout ça, mais bon, voilà. Et je commence aussi à discuter, à lier des relations avec des filles à distance presque.
Mm-hmm.
Et il y en a une où on est quasiment presque un sentiment d'amour, quoi, en fait. Parce que quand tu discutes tous les jours avec la même personne,
tu crées une intimité,
tu discutes des difficultés des uns des autres. Elle était dans le sud, on ne s'est jamais rencontrés. Et arrivent les sites de. Alors, je finis fin de mes études, et arrivent les sites de rencontres. Et alors là, là, gros changement.
Ça commence par quoi ? Mythique ?
Non, Netclub.
Netclub.
J'ai déjà 23 ans, je crois. 23 ans, c'est ça, ouais. Je précise que je suis informaticien, développeur. Et en fait, pendant que je suis en stage, une partie de mon temps, je me suis amusé à faire un petit algorithme pour en fait m'aider à répondre plus facilement. Comme ça prend du temps d'aller consulter les profils, tout ça. Je m'étais fait un petit truc qui me permettait de récupérer tous les nouveaux profils qui sortaient. Et j'avais fait un petit texte par défaut à mettre avec un texte à trous.
C'est bien un truc de développeur.
Et du coup, derrière, je personnalisais la réponse en fonction des informations.
Les gens ne voient pas ton sourire de satisfaction d'avoir créé
ça. Mais mine de rien...
Donc tu rencontres des femmes à travers ce site ?
Je rencontre comme ça.
Dans la vraie vie ?
Dans la vraie vie, ouais. Il y en a une, je pense, qui a failli se faire. Voilà, donc ça avance hein, quand même. Et puis... c'est vrai qu'il y a un truc, tiens, j'ai pas raconté. Je pense que c'est important. Je pense qu'il faut que je la transmette parce que c'est un truc qui peut être dur. À l'époque, mon père m'a fait la remarque comme ça. Il m'a demandé, tu serais pas pédé à aller toujours à ton club de jeu où il y a que des mecs. Donc ça, c'était
déjà l'utilisation.
Ouais, voilà. Mais bon, on n'est pas à la même époque aujourd'hui. À l'époque, c'était beaucoup plus marginalisé. En fait, ça traduit, si on prend le recul, ça traduisait l'inquiétude de mon père de me voir avec personne, en fait.
Bien sûr.
Et c'était super violent parce que moi, qui souffrais.
Pas y arriver avec les filles.
Pas y arriver. Mais en plus, faut pas prendre ça négativement, mais en plus, on traiterait d'homosexuels. À l'époque, c'était dur pour moi, quoi. Punaise. Même mon père,
Ouais, doute sur ma capacité à être capable de sortir avec des filles.
C'était ultra violent. C'était l'endroit où je me sentais bien, où j'avais réussi à avoir un espace où vraiment je me sentais super à l'aise. Et on me sort ce truc-là.
Ouais, ça doit être dur.
Et donc arrive cette période où je fais beaucoup.
Pas mal de rencontres.
Le premier vrai baiser, c'est avec elle, je crois. Ouais, c'est ça. Avec Christine, voilà. Je me souviens aussi d'avoir rencontré un couple. Alors, pas du tout un. Donc, par les discussions, Caramel et tout ça, auquel je me livre aussi. Moi, j'ai un peu de difficulté à rencontrer. Et on sort en boîte, ensemble. Et autant la femme, elle n'était jamais sortie, elle a 30 ans, je sais pas quoi. Elle n'était jamais sortie en boîte de nuit.
Mais vous rencontrez à titre amical.
Ouais, tout à fait, à titre
d'accord.
Amical.
Pardon, j'étais partie dans des...
Mais on discute aussi de notre rapport aux autres, au sexe, tout ça un petit peu. Et moi, j'explique que je suis complètement out, quoi. Et que justement, sans comprendre les codes, sans comprendre comment on rentre dedans. Et donc, continue comme ça les rencontres. On a un petit groupe qui s'est constitué, où on se retrouve à faire des soirées, à sortir sur Paris, plein de soirées. Et je régulièrement, en fait, je commence avec la vie de stagiaire, mais qui commence à être quasiment travailleur, à sortir beaucoup. Et je finis par sortir avec une des filles du groupe. Mmh. Donc, je commence à avoir une petite copine, tout ça. C'est plus parce que je crois que ça a été une facilité, mais c'était pas celle que je visais en plus. Je sais pas pourquoi. Je pense que, ouais, quand peut-être pour te rassurer, et voilà. Piste de danse, on s'emballe.
Ça sort de nulle part.
En fait, on se rapproche et bam, quoi. C'est moi qui me lance. Mais je crois que je calcule pas à ce moment-là.
Ok.
Et forcément, quand on calcule pas, ça marche tout de suite mieux.
Bah, bien sûr, le lâcher prise.
Voilà, le lâcher prise, voilà. Voilà, c'est sympa tout ça. Mais je me souviens quelques épisodes comme ça avec cette fille. Ou par exemple, chez mes parents, à un moment donné, où ils ne sont pas là, tranquilles, on se retrouve sur le canapé. Je me souviens de l'avoir masturbée, tu vois. Mm-hmm. Donc, elle a fait son plaisir, tout ça. Puis après, puis c'est fini, voilà. Et moi, dans ma tête, je dis, et puis moi, comme je...
T'oses pas, voilà, tu t'es dérangé.
Voilà, voilà. T'as tout compris, voilà. Moi, j'avais peut-être 23, elle devait peut-être avoir 19, voilà. Mm-hmm. Mais c'était pas une fille qui était si sérieuse que ça. Je me souviens à un moment donné, un pote qui nous ramène. Et en fait, le gars me ramène, me dépose moi, et puis la dépose elle. Et je sentais bien qu'il allait peut-être avoir quelque chose. Ah. Voilà. Au bout d'un moment, j'ai arrêté avec elle. Donc, tu continues comme ça,
ouais.
Je me souviens d'une fille, donc une fille africaine avec qui j'étais, avec qui ça se passe bien. Je n'ai pas précisé, je commençais à avoir un appart sur Paris. Place Italie, super. Et je rencontre cette fille avec qui on commence à sortir et qui commence à venir même habiter un peu chez moi.
Donc vous avez des rapports sexuels ?
Ben non. Okay. On dort ensemble. En fait, moi, je suis un peu bloqué. Quoi, okay. J'y arrive pas. Et elle, apparemment, elle me dit, ouais, bah, j'ai déjà eu des personnes qui étaient un peu, voilà, et elle relance pas.
Qui était un peu quoi ?
Qui était un peu bloqué, voilà. Et elle relance pas trop, je crois. Et je sais même
quand
pas.
Quand tu dis que t'es bloqué, c'est-à-dire que tu...
Non, mais on s'embrasse, mais je crois qu'il se passe rien.
Ça va
en fait, j'ai l'impression que j'ai même oublié, en fait. J'ai un blackout là-dessus. Ça avance, et ce qui me gêne dans cette relation, parce que je vais l'arrêter, c'est qu'à chaque fois qu'on sort ensemble, moi, je suis plutôt galant, c'est plutôt moi qui coiffe les choses, tout ça, mais au bout d'un moment, c'est tout le temps, quoi. Et au bout d'un moment, je me dis, bon, bah, ok, mais.
Tu sentais que tu l'entretenais un peu.
Ouais. Alors, elle m'avait dit qu'elle venait du Cameroun, qu'elle avait l'habitude d'être un peu là-bas, elle était un peu une princesse. Donc, elle ne faisait pas trop attention à ça. Mais je trouvais que c'était exagéré, quoi.
Ça te dérangeait dans le.
Ouais, ça me dérangeait.
Relation.
Et puis, j'étais peut-être pas. Voilà, c'était peut-être pas la.
C'était pas à fond.
Non. Voilà. J'étais un peu.
Un peu
chirurgical, quoi. C'est fini, c'est stop, quoi. Je continue à faire des rencontres comme ça. Bon, et arrive à un moment donné où je fais une rencontre où la fille, elle arrive avec 2 heures de retard. Malgré les 2 heures, je suis encore là. Bon, on m'a prévenu quand même par téléphone, tout ça. On sort directement ensemble. C'est pas, comme j'ai dit, je cherchais pas forcément le physique. Donc, elle n'était pas. Ouais, bof, quoi. Mais bon, ça, elle se regarde. J'aime pas trop dire ça, mais c'est fait, voilà. Elle paraissait intéressante, voilà. Un peu rigolote. Ouais, on s'embrasse direct. Voilà.
Dès le premier rendez-vous.
Ouais. Ah oui, d'ailleurs, j'ai pas raconté la blague, ça avait été marrant comment j'avais embrassé. On est au restaurant. Il y a une coupure d'électricité et j'ai profité de la coupure d'électricité pour l'embrasser. Alors, c'est la première fois qu'on se rencontrait. Tac, direct. Et en fait, c'était à la fois un peu, ça allait dans mon côté timide, donc j'ai me cacher entre guillemets, mais c'était vachement courageux entre guillemets parce que tu peux te prendre un sacré vent.
Bah oui, puis il y a une question de consentement aussi. Elle aurait pu ne pas vouloir.
Ouais, ouais, mais j'avais senti que c'était.
D'accord, t'avais senti.
Ouais. Voilà, j'avais senti quand même. Voilà. Mais je suis d'accord sur le consentement.
Et donc,
avec cette jeune fille. Ça se passe bien, on commence à se revoir, Je me souviens du premier soutien-gorge qu'on enlève, des massages.
Donc là, vous passez un peu l'étape supérieure.
On est vraiment ensemble sur plusieurs mois et sur plusieurs années. Je me marie avec elle quelques années après, voilà. C'est pas forcément tout facile. Hein. Alors elle aussi, je pense qu'elle n'avait pas non plus énorme, pas tant. Elle avait déjà de l'expérience, plus que moi, pas difficile. Mais pas non plus 36 000. Et je pense qu'on est assez... on fait les choses, mais on ne parle pas trop.
D'accord.
On peut parler de plein de choses. Il peut y avoir de la conversation.
Mais vous ne parlez pas de sexe.
Mais pas trop de sexe. Non, pas trop.
Ça vous gêne ?
Je crois qu'on ne parle même pas que ça nous gêne, en fait.
D'accord.
On n'arrive même pas au stade d'en parler que ça nous gêne. On le fait.
Pourquoi tu n'oses pas, il y a une côté
tendresse, voilà.
Pourquoi tu n'oses pas lui dire les choses ?
Je ne sais même pas comment en parler, quoi.
D'accord.
Je crois que je ne sais même pas en parler. Ouais, je pense que je ne sais même pas en parler.
Donc, votre première fois, tous les deux ?
Peu de souvenirs. La première fois, c'était chez elle, je m'en souviens. Effectivement, on a fait ça un peu à traditionnellement. Mm-hmm. C'était bien, mais voilà, c'était naturel. Voilà.
Et avec elle, t'étais pas bloqué.
Ça s'est fait petit à petit, je pense. Aussi.
Vous avez laissé du temps, en tout cas.
Ouais, non, ça a été progressivement. Voilà. Oui, oui.
Vous vous mariez au bout de combien de temps ?
On est en 2002, on se marie en 2005. Voilà.
Okay.
Avant, il y a eu quand même un épisode un peu compliqué où on a failli arrêter. Mm-hmm. Parce qu'à un moment donné, elle me parle d'enfant. Et moi...
Beaucoup trop tôt.
Mais j'en vois pas. En fait, j'en veux pas, en fait, au départ. Mes parents ont toujours vu, fait plein de choses. Comme si c'était, pour nous, c'était des contraintes, les enfants. T'as plus de vie. En fait, mes parents étaient tellement tournés sur nous. Ma mère était tellement présente, tout ça.
Ce qu'on appelle la maternité sacrificielle.
Voilà, c'est ça. Que nous, on se dit, oh là là, si on tombe là-dedans, on n'a pas de vie. Et donc, du coup, au départ, quand elle apprend que je veux pas forcément d'enfants, elle dit, bah non, c'est pas la peine, je vais arrêter, quoi. Et moi, c'est la catastrophe parce que je suis dans l'histoire. J'en parle à mon père, pour le coup, on parle de ça, ce genre de choses. Et il me dit, ouais, mais tu vas peut-être changer, tout ça. Et ce qui fait qu'on reprend. Et puis, l'histoire évolue, voilà, on est bien ensemble. On aime beaucoup visiter les choses. On aime bien le cinéma.
Elle aime bien les jeux de rôle ?
Non. Pas du tout, non. Non, ça c'est... Alors ça c'est...
D'accord.
C'est, ouais, là-dessus, c'était... Non, ça c'était compliqué. C'est quelqu'un qui a peu confiance en elle. Mm-hmm. Beaucoup de difficultés à ce niveau-là.
Tu dirais que toi, t'as confiance en toi ?
Je pense que si je dirais oui, les gens ne me croiraient pas, quoi. Après tout ce que j'ai dit là.
C'est toi qui sais.
Ça dépend des domaines.
En fait, il y a plusieurs choses. Il y a la confiance en soi et l'estime de soi. C'est deux choses différentes.
C'est une bonne... Je ne sais même pas si je pourrais répondre à cette question.
Bah,
tu
le gardes, c'est une bonne réflexion. Dans ta poche et tu me diras par mail ce que tu en penses.
Ouais, ça me va.
Mais c'est deux choses différentes. Donc vous vous mariez, vous continuez votre histoire.
La difficulté, c'est qu'elle me remonte, elle est un peu surpoids. Et au fil des ans, ça ne s'arrange pas. Et moi, ça me pose pas de problème. Je précise tout de suite, que ça soit clair. Pas sur le moment, en fait. Après, c'est autre chose. Mais c'est quelqu'un qui a très peu d'estime de soi. Ouais. Et en fait, qui se dénigre tout le temps. Qui a avoir des difficultés aussi au travail. En tout cas, ce qui remonte, elle. Où elle dit qu'elle est victime d'harcèlement. Où c'est difficile. Où elle va se retrouver un peu écartée. Voilà.
Au boulot,
et
ouais.
Moi, où j'essaie de la soutenir. Voilà, entre sa chef qui est un peu tyrannique. Voilà. En tout cas, ça, c'est ce qu'elle me dit à l'époque.
Ouais. Ça prend beaucoup, beaucoup de place, quoi.
Ça prend beaucoup de place. Et du coup, moi, j'essaie de la soutenir. Mais un peu aussi... On est un peu dans la guerre des mails et des lettres avec le patron, en fait, voilà. Elle me le reprochera plus tard d'avoir trop, peut-être, aidé dans ce sens-là, plutôt de faire trop essayer de soutenir dans le fait de le rapport, de pas perdre le rapport de force, en
d'accord.
Fait, et pas peut-être essayer de lâcher l'affaire.
Plus le physique qui suit pas.
Ouais, je pense qu'il y a un peu...
C'est souvent lié, tout ça.
Ouais, un peu qui est lié. Mais bon, on a un projet d'acheter une maison et on commence à essayer de faire des enfants. On se lance, je me dis pourquoi pas.
Okay.
Mais je suis pas dans le truc encore. Mais c'est pas sans rien, ça marche pas. Voilà, ça met du son, voilà, donc ça a pas l'air trop de
marcher. Et votre vie sexuelle, elle est comment ?
Alors, vanille. Ça va, mais c'est pas, voilà. Je me souviens, je pense qu'il y a des problèmes de communication. Parce que je pense, dans les premières fois, elle me fait ce que moi j'avais compris comme être un compliment, en me disant, elle est grosse, ou bon, voilà. Voilà, je sais pas, ça serait pas très fort.
On a compris.
Voilà. Mais quelques années plus tard, elle m'avait expliqué qu'elle avait changé beaucoup de taille entre le repos et voilà. Et que c'était pas forcément un compliment, et voilà.
D'accord.
Et en fait, on en restait on parlait pas.
En fait, il y avait beaucoup de non-dits, quoi.
On parlait pas. Après, le fait de voir les enfants, bon, ça fait que tu le fais un peu, mais presque pas mécaniquement. Je pense pas, mais on faisait, voilà. Elle se retrouvait enceinte.
Comment ça se passe pendant qu'elle est enceinte ?
Pour elle, très mal. Ça veut dire qu'elle arrête pas de vomir, elle est pas bien au lit. Alors, moi, je suis au petit soin avec elle. Voilà, je suis au petit soin. Ben, forcément, je suis le bon garçon. Mm-hmm. Je suis gentil. Donc, autant que je l'ai aidé sur d'autres choses. Parallèlement à ça, ça se passe pas très bien avec ma famille, elle. Elle est un peu dure, en fait. Elle est un peu trash. Et ça se passe pas.
Avec toi ?
Les deux. C'est-à-dire, un peu avec ma sœur. Mais un peu crue. Elle a tendance à être un peu directe et un peu crue, quoi.
Mm-hmm.
Et du coup, ça passe pas toujours. Mes parents, c'est un peu, on met les formes et tout ça. Ça se passe bien avec tout le monde.
Ouais, après, tu étais peut-être aussi mariée avec une femme qui avait besoin un peu de secouer aussi ce rapport de bon garçon avec ses parents.
Peut-être, mais en même temps, elle était plutôt un peu traditionnelle aussi. Faut pas...
Oui, sans cette...
Voilà, mais peut-être. Elle se sentait pas acceptée. C'est peut-être un peu vrai chez mes parents. Mais il y a un peu son rapport à elle aussi. Parce qu'elle, le nombre de fois qu'elle me disait, ouais, les gens me regardent dans les transports...
C'est
parce que je suis grosse, je suis pas bien, tout ça. Et j'avais beau lui dire.
Mais quand tu dis elle est grosse, elle était vraiment très grosse.
Au début, pas tant que ça. À la fin, elle faisait 20 kilos de plus que moi quand même. Elle faisait 1m55.
Après, t'es pas très lourd, toi.
Non. Je suis pas très lourd, mais quand même. Parce qu'à l'époque, je faisais dans les 90 kilos.
1m55, 90 kilos. Okay.
C'est pas mal.
Et toi, tu mesures 1m.
Je suis 1m72. Et à l'époque, je faisais 75. Maintenant, j'en fais 67. Elle a vraiment pas d'estime d'elle. Et en fait, ce qui est dur, au début, tu dis, mais si, t'es jolie, t'es ceci, cela. Et au bout d'un moment, ça...
Elle t'entend plus, quoi.
Elle t'entend plus. Pas, ouais. Et toi, ça retombe de ton côté aussi. C'est pas simple. Ce qui fait pas que tu gardes toujours de la tendresse, quoi. Moi, de la tendresse pour elle. Mais c'est quelqu'un un peu de froid aussi. Alors, tant moi, je suis très câlin, très tendre. J'adore me lever contre les personnes. Voilà. Ouais, le rapport au corps, à la...
Bah, quand tu ne t'aimes pas, c'est difficile de donner aussi, tu vois.
Je l'avais pas vu comme ça.
Quand tu n'aimes pas ton corps, tu n'as pas envie de le mettre en scène. Et puis, être charnel, c'est surtout déjà être bien avec son corps, avec son enveloppe, tu vois. Donc, c'est compliqué d'accueillir quelqu'un en son sein quand toi-même, tu détestes ce corps-là. Pas aimer sincèrement quand tu ne t'aimes pas.
Ouais.
Grossesse difficile, accouchement.
Grossesse difficile. Alors, l'accouchement long pour elle. Et comment dire, après coup... elle me dit qu'elle est déçue parce que les hormones ont tout fait pour qu'elle lui donnait envie d'enfant et qu'après c'était un peu parti, quoi. Voilà.
Elle a un postpartum.
Un peu le baby blues peut-être, tu vois, mais c'est un peu facile de dire. Alors moi.
Donc la chute d'hormones fait qu'elle est
un peu plus
au fond du seau.
Mais ouais, voilà, un peu plus. Mais ça va encore.
Comment tu gères, toi, cette arrivée de
bébé ? Moi, la naissance de Chloé, ma fille. C'est le plus beau cadeau de ma vie. Alors moi, c'est autant je m'attendais à rien de particulier, comme j'ai dit, j'étais pas du tout dans le truc. Autant elle est là, mais c'est génial. C'est jamais j'aurais pu avoir un truc plus merveilleux. Mais waouh.
On sent que t'es ému quand tu dis.
Ah ouais, non, mais c'est.
C'était la révélation.
Ah ouais, c'était le c'est merveilleux, quoi. Mm-hmm. J'ai coupé le cordon, tout ça. j'étais là après. En fait, on était obligé de me dégager à chaque fois à la maternité.
Il faut partir, monsieur.
Voilà, c'est ça. Et donc, c'est génial.
D'accord. Donc, c'est toi qui t'occupes du bébé quand t'as...
Non, alors, ça va, en fait. C'est pour ça que je te dis ça va après. C'est juste sur une petite période. Oui. Mais elle s'occupe parce qu'elle, du coup, elle n'a pas voulu retourner au travail.
Ouais, ouais.
Elle a trouvé une rupture conventionnelle. Elle s'occupe de notre fille. Moi, je suis quand même présent hein, parce que j'adore être avec elle, quoi. Alors, régulièrement, je dis, vas-y, sors. Moi, je m'occupe de Chloé. Vas-y, sors. Voilà. Elle commence à ressortir un petit peu grâce au site OVS. Mm-hmm. On va sortir, je sais pas si tu... qui permet de faire des sorties amicales, entre guillemets. Elle se refait un peu un cercle d'amis, ce qui est pas mal.
Donc, parce qu'elle
est
mieux.
Un petit peu, ouais. Et mais par contre,
votre sexualité.
La sexualité, il y a pas tant que ça, mais c'est un peu distant. Elle est jamais trop entreprenante, voilà.
C'est jamais elle qui est demandeuse.
C'est jamais elle. Pourquoi j'en parle, c'est qu'il y a un soir où je comprends pas, elle me saute dessus. Donc je suis pas content, voilà, mais je comprends pas. Et elle tombe enceinte direct. Et sur le coup, sur le moment, ça m'a travaillé parce que je sais qu'elle était rentrée tard, je crois, dans la période et qu'elle m'avait raconté qu'elle avait fait un peu n'importe quoi parce qu'elle était montée un moment dans une voiture d'un des garçons alors qu'elle ne connaissait pas parce qu'on va sortir, le principe, c'est des gens qui s'inscrivent sur des sorties qu'ils ne connaissent pas. Sur un moment, je me suis posé la question si elle ne m'était pas tombée dessus parce qu'elle n'aurait pas fait quelque chose avec le gars pour masquer le truc. J'aurais jamais la réponse parce que je ne sais pas, mais je ne crois pas. Mais bon, sur le moment, ça m'est passé à l'esprit, mais pas plus que ça. Elle tombe enceinte et elle me dit qu'elle garde l'enfant parce qu'elle, elle n'avait pas forcément envie, mais que si moi je le. Mais sans que je puisse en avoir mot presque, en fait. Je sais pas, ça se fait sans se poser
d'accord.
de questions.
Alors que toi, si elle en voulait pas, t'aurais pas insisté.
Du coup, je sais pas si j'aurais insisté. Là, elle garde l'enfant. Je sens à la naissance de Lise. Donc moi, je suis déjà super content parce que je sais ce qui m'attend cette fois-ci. Donc un deuxième cadeau qui arrive à quelques jours avant mon anniversaire. Donc en plus, je suis pas content. Mais sauf que la difficulté, c'est que je sens qu'elle est beaucoup moins attachée, moins envie de cet enfant. Et moi, du coup, je fais presque l'inverse. C'est-à-dire, du coup, j'ai envie de me...
T'impliquer encore plus.
Ouais, parce que j'ai peur que Lise...
Que ce bébé ressente...
Ressente, ouais. Ce qui veut pas dire qu'elle ne l'aime pas, qu'elle n'est pas intentionnée. Non, je sais pas ça que je suis en train de dire.
Elles ont combien d'écart, tes filles ?
Du coup, 22 mois, elle arrive à se relancer, à vouloir refaire des études. Je trouve que moi aussi, au boulot, j'en ai un petit peu...
Donc elle se réinvente de son côté un peu.
Ouais, moi j'en ai un petit peu marre aussi. J'essaie aussi, j'essaie de faire un congécif pour faire une formation d'un an. Sur le jeu vidéo qui est ma base, ce que je voulais faire en fait, je voulais faire de l'intelligence artificielle dans le jeu vidéo, mais je pensais que j'avais qu'une chance, je suis ingénieur, jamais ils me diront oui. Et je suis pris sur le coup. Elle veut pas que je le fasse parce qu'elle me dit comment on va faire
si tous les deux
fait les études, sachant que c'est financé. Du coup, j'étais en réflexion pour savoir si j'y allais ou pas. Moi, ça m'a été dur pour moi, c'est que du coup elle avait le droit mais pas moi, quoi. Moi, j'en avais besoin aussi, et donc déjà c'est un peu compliqué. quand elle fait son stage, ça se passe mal en entreprise. Mm-hmm. Elle dit que ça va pas. Elle m'appelle plusieurs fois, elle dit qu'elle a envie de se suicider.
Ah oui.
Parce qu'elle était déjà dans cette idée. Non,
elle était passée à une autre étape.
Ouais. Ouais, elle était déjà avant.
Et comment ça se passe avec les filles à la maison, votre intimité, etc.
Il n'y a pas grand chose. Je pense qu'on est un peu. Alors, je pense qu'on a, comme on est nouveaux parents, on est un peu occupé déjà.
Bah, vous avez deux petites filles, deux avec petites peu filles, d'écart.
Peu d'écart. Au départ, on n'avait pas de crèche. On jonglait un peu les choses. Donc, on n'était pas trop là-dessus. Mais quand même, il y a.
Tu sens qu'il y a une distance.
Il y a une distance. Et là, sur cette histoire d'études, il y a. Moi, je vois que je l'avais beaucoup accompagnée, beaucoup aidée. Et au moment où moi j'en avais besoin, elle n'était pas capable de faire l'effort que moi je faisais pour elle. J'étais capable de faire des sacrifices pour qu'elle puisse aller faire des choses, mais elle ne voulait pas pour moi.
Et ça, ça t'a.
Et moi, ça m'a. Là, c'était. Là, ça m'a fait.
Ça cassait quelque chose.
Ça cassait quelque chose. Mmh. Ouais. Ça cassait quelque chose. Fait cette formation, moi aussi, à nouveau au niveau boulot. Et là, elle a du mal et tout ça. Je vais peut-être me suicider ça. Et là, il y a une camarade de promo où je suis, avec qui j'en parle, qui est ancienne médicale. Elle me dit, non, mais ça, si elle voulait vraiment, elle le ferait. C'est en fait du chantage qu'elle te fait, c'est du chantage affectif. C'est là que je commence à comprendre certaines choses. Les choses avancent comme ça. Et puis, moi, je vais aussi commencer mon stage. Et arrive un événement non prévu, c'est que Chloé, donc mon aînée, tombe gravement malade. Et quand je dis gravement, c'est pas rien. C'est-à-dire qu'elle déclare une épilepsie très grave, très sévère. Elle a 3 ans. Quand je dis ça, c'est qu'à l'époque, elle a passé 3 mois complets à l'hôpital. Donc 3 mois non-stop. Vous pouvez imaginer, au plus fort de la crise, elle faisait peut-être une trentaine de crises par jour. Au bout d'un moment, vous désapprenez ce que vous avez appris.
Bien sûr, ça a des répercussions neurologiques.
Voilà. Au plus fort, pour donner vraiment une idée, au bout d'un mois, il y a une semaine, ou en une semaine, elle a perdu la marche et la parole. Puis à un moment donné, elle ne peut plus marcher, puis à un moment donné, elle ne peut plus parler.
Donc c'est
après, c'est revenu. Voilà, parce
c'est
qu'après,
une épreuve familiale terrible,
qu'on arrête tout. Moi, j'ai la chance, là où ils sont en stage avec moi, ils sont super cool. Je suis resté tout le temps avec Chloé. Alors du coup, je laisse Lise de côté un petit peu. Là, il y a un basculement. Au moment où tombe malade Chloé, à chaque fois, on est dans le mauvais cas. Et au début, elles doivent passer un examen. Donc, c'est moi qui vais. Et puis finalement, c'est moi qui continue à y être. Et elle a une peur de rester à l'hôpital. Donc, elle vient régulièrement. Donc, au début, ça nous a plutôt rapprochés. Et après, en fait, comme on n'a pas eu le même
vécu,
ressenti, ça fait un peu une distance. C'est-à-dire, bon, moi, je me suis dit, bon, là, elle ne le sent pas, elle a du mal avec l'hôpital. Mais je m'attendais quand on revenait à la maison, qu'elle me seconde. Parce qu'il faut imaginer que j'ai passé des mois où je dormais des fois 3, 4, 5 minutes par nuit. T'as peur que ta fille meure, c'est ça,
là,
et s'il y a trop de crises, et donc tu peux pas te.
Non, mais c'est l'angoisse et le stress qui te tient réveillé.
Voilà, et tu sais même pas comment tu tiens. On revient à la maison, son épilepsie. Voilà. Ça s'appelle le syndrome de dose, voilà, mais bon, voilà. Donc ça a été compliqué. Au départ, c'est sur moi que. Je dormais avec Chloé, donc elle dormait dans le lit du marital avec moi, et mon ex, elle a pris son lit à elle, en fait, parce qu'elle se sentait pas, en fait, elle avait peur de pas assurer sur les cris. À ce moment-là, j'étais licencié, elle a fini son chômage, donc on est tous les deux sans emploi. Donc ouais, là, on se dit, punaise, pourquoi j'ai fait la formation ? Mais bon, c'est.
Tu ne pouvais pas prévoir.
On pouvait pas prévoir, non. Entre tous les deux, ça se distend, quoi. Voilà. Et puis, on n'en parle même pas, parce que de toute façon, on est tellement dans la maladie que. Sur un an et demi, c'était si que ça, quoi. Mais on se distend, et puis on n'est pas d'accord sur la façon de gérer. C'est-à-dire que mon ex, elle a été plus dit, on met une petite chauffeuse à côté nous du canapé, c'est bon, on peut la surveiller. Et moi, je dis, bah non, il faut qu'elle soit dans des bonnes conditions pour dormir. L'investissement n'est pas le même. Il se passe aussi qu'elle a la possibilité de retravailler. Moi, quand on est à l'hôpital, je lui dis, vas-y, parce que toi, tu as besoin de retourner au travail. Et moi, peut-être que je ne l'ai pas assez exprimé, mais j'avais besoin d'un relais parce que t'es
H24, avec un enfant petit en plus.
Après,
hein.
Plus tard, j'apprends que normalement, tu peux avoir le droit à une aide médicale, mais il n'y a rien eu du tout. Et en fait, il y a un changement. Moi, j'ai un accident de voiture avec Chloé parce que je suis tellement
fatigué.
J'aurais pu tuer quelqu'un, là, je m'en veux, parce que je suis rentré dans la voiture en face. Et là, l'air prend un petit peu le relais, mais ça s'essouffle. Chloé commence à aller un petit peu mieux quand même. Donc, du coup, je commence à essayer de me tourner vers de la formation et je commence à donner quelques formations. Et l'avantage, c'est que je peux en donner quelques-unes et pas être pris tout le temps. Chloé, elle est mieux, mais le couple, par contre.
Et la tendresse.
Ouais, là, c'est vraiment.
C'est logistique et gestion des enfants, quoi.
Ouais, elle se renferme un peu aussi.
Il n'y a plus de tendresse du tout.
Elle n'avait pas tant que ça, en fait. Mm-hmm. Hein. elle était un peu dure des fois avec moi. Elle m'avait déjà giflé une fois aussi parce qu'elle était énervée. Moi, j'avais dit stop, si tu continues, c'est pas hors de question, quoi. Elle commence à être aussi pas mal sur Internet, tout ça. Je suis pas bien non plus parce qu'il y a plus rien quasiment entre nous. Je pense à aller voir ailleurs. Que je profite, c'est une des premières formations. À regarder les plans de rencontre sur, tu sais, t'as des clubs libertins ou autre, je sais plus. Sur une des villes où j'allais aller. T'as dans l'idée, tu te renseignes, mais finalement, tu fais pas vraiment. Alors, à un moment donné, elle regarde. Elle doit récupérer un document, je ne sais plus pourquoi, sur mon mail. Je reçois une sale pub, tu sais, des fois, quand tu vas sur des trucs, bien tu sûr. Récupères des machins. Et elle tombe là-dessus. Et donc, en plus, avec la ville qui matchait, tout ça, donc forcément un peu compliqué.
Elle te dit quoi?
C'est la dispute, hein, on n'est pas plus ou moins. Je n'ai pas plus loin que ça, en fait. Hein. Peut-être le manque de courage aussi. Il faut dire les choses, des fois. Hein. Et je ne sais pas pourquoi, je prends son téléphone à un moment donné et je vois un nom de quelqu'un que je ne connais pas. Fausse manip, j'appelle la personne, mais vraiment fausse manip, quoi. Et donc, ça, c'est pas bon parce que la personne a raté. Bah, du coup, ça mène sur la discussion, mais c'est qui cette personne et tout. Et me dit pas, en fait. La voyait toujours passer son temps sur Facebook, ceci, cela. Et elle a commencé à rediscuter avec un ancien collègue. Elle passait son temps à discuter avec lui sur Internet. Mais lui, en fait, il avait sa vie, il n'était pas du tout intéressé. Et elle a commencé à se monter un truc. J'ai fait peut-être les choses qui sont pas top. J'ai commencé à fouiller, quoi, à regarder. Et quand vous fouillez, vous trouvez forcément.
Ah bah.
Voilà. Et donc, sur quoi je tombe, sur ces discussions, il y a entre autres une lettre d'amour qu'elle avait préparée pour lui. C'est un peu chaud, quoi, un peu dur. Hein,
c'est violent.
C'est violent. Quand tu vois ta femme, elle a écrit une lettre d'amour pour quelqu'un d'autre, quoi.
Et qu'elle ne te donne pas de tendresse.
Ouais,
qu'elle te...
ouais,
qu'elle
ouais a... mais ça... moi, ce que je comprends, c'est qu'à ce moment-là, le problème, c'est qu'il n'y a pas de communication.
Vous êtes des étrangers. Enfin, ouais.
On dort chacun de notre côté.
Ce que
voilà.
Tu dis, c'est qu'il n'y a plus de partage, il n'y a plus d'échange.
Non,
de...
non. Et moi, je lui dis, j'essaie de lui en parler de tout ça, et il n'y a pas de réaction.
T'as peur d'elle?
Non, pas à ce moment-là. Je lui dis que j'ai vu tout ça, voilà, j'ai regardé.
T'es dans quel état d'esprit dans ces cas-là?
En fait, je pense que j'ai aussi conscience qu'il y a un problème. En fait, je me questionne beaucoup. Moi, je me suis vu aussi aller ailleurs, et je me dis, ça va pas, quoi.
Oui, avec les valeurs que t'as et dans lesquelles tu as grandi.
Ça va pas. À ce moment-là, je suis pas en colère. Je suis pas encore en colère. J'en ai pris pour mon grade, quand même. C'est dur, quoi.
Pour l'ego, ça pique. Hein.
Ça pique, quoi. Je lui dis, il faudrait que tu arrêtes. Mais elle, je pense qu'à ce moment-là, je comprends pas, elle a besoin de discuter. Elle continue. Donc moi, plus elle continue, plus je regarde ce qui se passe. Je mets même des espions sur son ordinateur, je suis au courant. Et plus tu creuses, plus tu trouves. Et c'est là que je trouve qu'elle était inscrite sur des sites de rencontres, qu'elle avait même mis une annonce quelque part en disant qu'elle cherchait quelqu'un pour l'accepter, elle et ses enfants. Et ça, cet effet même, la fameuse truc où j'ai cherché à aller ailleurs, qui m'a gêné quand j'ai...
que c'était pas un concours.
Donc c'est pas un concours. Mais ce qui m'a gêné dedans, c'est qu'au moment où elle a découvert que moi, j'envisageais d'aller éventuellement ailleurs, qui m'a fait tout un scénario, elle l'avait déjà envisagé. Et au lieu de...
Vous avez été très très malhonnête l'un envers l'autre.
La mauvaise foi de dire, de nier, quoi. Je sais pas si tu...
Oui, bien sûr, mais en fait, vous avez été très malhonnête l'un envers l'autre, et surtout avec vous-même.
Ah oui.
Toi, tu cherchais à, de ce que je comprends, trouver un peu de tendresse ailleurs. Elle projetait de partir avec ses enfants.
Ouais, ça c'est plus dur encore.
C'est pas du tout le même projet, non. Hein. Toi, tu cherchais une relation d'adulte à adulte juste pour s'éclater.
Ouais. Oui, et non, j'étais pas
autre chose.
Ouais, c'était pas la... et c'est violent en fait.
Ah bah,
ça.
Oui.
Et j'essaie quand même de discuter avec elle. J'essaie aussi, mais alors je fais pas forcément bien. Elle essaie que je l'espionne, elle veut que j'arrête. Moi, je dis que je t'arrête d'aller discuter à droite à gauche, de le draguer parce que c'est pas comme ça qu'on va avancer. Elle me dit qu'elle va arrêter, elle arrête pas. Donc moi, forcément, je suis pas content. Moi, je me souviens de commencer des formations juste avant la formation d'être en larmes. Je suis effondré parce que c'est dur.
T'as peur de perdre des enfants?
Non, j'ai pas conscience de ça à ce moment-là. Mm-hmm. J'ai pas conscience, je suis effondré. Elle continue en fait un petit peu à s'enfuir, essayer de discuter. Ouais, à l'autre, en plus, l'autre il est FN, inconfini, horrible, stupide. Voilà. Et en fait, elle le court après, mais lui il en veut pas non plus. Parce que je vois les conversations. Elle la remet à sa place. Et il dit même qu'il veut préférer arrêter tout ça parce que je la retrouve un soir en larmes, comme une larme d'amour pour quelqu'un d'autre.
Il y a une forme d'érotomanie chez elle. L'érotomanie, c'est la projection d'une relation amoureuse qui n'existe pas.
À cette époque, je discute pas mal avec ma sœur parce que je ne suis pas bien. Je parle aussi du doute que j'ai de ma paternité vis-à-vis de Liv. Je crois qu'elle laisse un message, ma sœur, sur mon téléphone, plus ou moins. Et pendant que je suis en train de doucher les filles, femmes de l'époque, écoute mon messagerie et tombe là-dessus. Forcément, elle est en colère vis-à-vis de ça. Elle commence à m'engueuler, tout ça. Moi, j'essaie d'expliquer aussi, voilà. Et elle commence à me pousser et tout ça, plutôt violemment. Et pour qu'elle s'arrête, je la fais tomber sur les fesses.
Ok.
Alors, c'est important parce qu'elle, à ce moment-là, elle appelle la police.
D'accord.
Ouais. qu'elle considère... Elle s'est fait mal. Alors, elle s'est fait peut-être fait mal sur le coccyx, sur la chute, tout ça, voilà. Mais ça n'a pas été plus qu'une petite balayette, entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai pris les mains, j'ai mis le pied, je l'ai fait tomber sur les fesses, quoi. C'est pas, je ne l'ai pas projeté, voilà. Et on était à quelques jours de Noël. Je me souviens de la police municipale, finalement, qui est venue, qui nous a pris à part, qui a expliqué les choses. Il dit, écoutez, si vous portez plainte, monsieur pourra porter plainte aussi parce que vous avez poussé. Vous allez tous vous retrouver au commissariat. Ce n'était pas une bonne idée. Ils étaient plutôt dans l'apaisement. Peut-être mieux que monsieur, vos parents, ils habitent loin, tout ça, où ils se cherchaient. Vous passez quelques temps, vous vous retrouvez tous pour Noël. Ouais. On va atténuer tout ça, quoi. Puis c'est avant ou après. On engage une thérapie de couple pendant un an. Il y a une fois, elle veut se suicider, elle monte avec alors, je sais, c'est pas forcément drôle, mais elle monte avec du clamoxyle pour dire je vais prendre des médicaments. Donc, c'est du clamoxyle, c'est des antibiotiques, donc vous allez avoir un peu de diarrhée, mais vous n'allez pas mourir pour ça. Mmh. Comme ça n'allait pas, j'ai voulu voir le médecin de famille. Elle a commencé à reprendre des médicaments, et là, il y a une fois où elle s'enferme en menaçant de prendre des antidépresseurs et tout ça. Et là, je sais que c'est pas la même chose. Donc, j'essaie de défoncer la porte pour l'empêcher de prendre. C'est là qu'on voit défoncer une porte. Ça se passe en 5 minutes comme dans les films. C'est super compliqué. J'arrive à ouvrir la porte, mais je mets super de temps. Donc, elle avait tout le temps si elle voulait de prendre des médicaments. Donc, je lui enlève les médicaments, elle me crache dessus, elle se débat, elle prend tout ça, elle mourit.
Oui, ça commence à être violente.
Ah ouais, elle commence à être très, très violente, sachant qu'à côté. Bah, je surveille toujours Chloé qui est malade, qui fait toujours des crises, tout ça, parce qu'il faut se remettre encore qu'il y a Lise qui est petite aussi. Hein. Mmh. Et puis je ne peux pas gérer ça, j'appelle le SAMU. Et là aussi, un choc aussi. Donc le médecin du SAMU qui me demande de lui parler, parce que là, ça calmait un peu, elle dit au médecin que mon mari me fait du mal. Et moi, je tombe des nues, quoi. Et alors là, je dis, attends, je viens pour la secourir. What the fuck? Parce que moi, mais je m'attendais pas à celle-là, quoi, tu vois.
Primordial que la parole des femmes violentées soit prise en, tu vois, en considération enfin.
Oui.
Mais j'imagine quand une femme dit mon mari me fait du mal.
Ça peut être compliqué. Mais l'épisode de Noël m'a fait prendre conscience d'une chose, c'est que j'avais l'intérêt de surtout rien faire. Parce que le moindre truc, j'en avais pour mon grade, quoi.
Ah oui.
Et donc, il ne fallait pas que je réagisse parce que je suis plus fort qu'elle. Je n'ai pas de souci à le dire, mais que je ne pouvais pas réagir. Et sauf qu'il s'est passé petit à petit, c'est qu'elle a commencé à être de plus en plus agressive vis-à-vis de moi. Il y avait déjà le cas, en fait. Je ne m'en rendais pas tant compte que ça. J'étais beaucoup en soutien vis-à-vis d'elle. Elle n'était pas bien et je l'excusais beaucoup quand elle faisait des excuses vis-à-vis de son boulot. Mmh. Et en fait, ma famille se rend compte qu'elle me traitait mal. Moi, je ne m'en rendais pas
forcément. Elle te parlait mal.
Elle me parlait mal. C'était mal passé avec mes parents et j'avais même mis mon père à la porte. Petit à petit, les relations deviennent de plus en plus vraiment me dénigrer, tout ça. Et puis arrive le 21 janvier 2015. 21 janvier, c'est très simple, c'est mon anniversaire. Alors, mon ex passait beaucoup de temps devant la télé. Le jour de mon anniversaire, j'avais envie de me détendre devant la télé. Donc, je couche les enfants. C'est souvent plus moi qui les couchais, c'était plus ça. Je regarde pour mettre un programme à la télé. Il n'y avait pas grand-chose, mais bon, on voit, allez, je me lance là-dessus. Et elle me dit, moi, tu veux pas changer, c'est pas terrible et tout ça. Et je dis, bah écoute, j'ai fait le tour, il n'y a pas grand chose d'intérêt. Ouais, ça, j'ai envie de vous regarder ça. Puis elle insiste, une fois, deux fois. Et je dis, bah écoute, je croyais que quand même le jour de mon anniversaire, je pourrais choisir le programme au moins. Et là, moi, je dis, bon, je pars chercher mon ordinateur, je crois. Je sais plus. Ouais, et là, elle commence à s'énerver, partir en live. Et sachant qu'il y avait déjà quelques petits épisodes avant. Et là, elle commence à me gifler, mes lunettes qui volent. À un moment donné, je me protège, je me souviens que mes doigts, même, ils partent en arrière, un peu mal. Et qu'elle m'insulte, ouais, défends-toi, t'es pas un homme, t'es pas un mec, vas-y, elle m'attrape entre les
couilles,
voilà, les testicules. Voilà. Et moi, je prends ça en pleine face.
Et
quoi.
Tu.
Ma réaction, c'est de sortir de. Alors, déjà, ma réaction, c'est de protéger mon ordinateur, mon petit travail. Je trouvais ça con, mais n'empêche que ce qui fait tourner la maison, c'est mon boulot, c'est mon outil. Si j'ai pas ça, je suis à mon compte, comment on s'en sort? Je la sens complètement...
Partir en sucette, là.
Et me protéger. Et elle me dit, le lieu où je peux être tranquille, où elle va me respecter, c'est dans la chambre de ma fille. Et je vais dans la chambre de ma fille.
Mais tes enfants dorment.
Mes enfants dorment. Et là, me lâche plus. Moi, mais ouais, tu vas embêter Chloé, pourquoi tu vas là, machin. Bon, voilà. J'ai même pas eu le réflexe.
Le fait que tu sois dans la chambre de votre
elle
fille.
Elle va respecter.
Elle va pas vouloir montrer cette violence devant l'enfant.
Elle va respecter. Chloé, on sait que le sommeil est très important pour les épileptiques.
D'accord.
Et qu'elle va respecter cet état-là. Mais j'ai même pas le réflexe de sortir dehors. Mais en même temps, on n'est pas, pas préparé.
Non, on n'est pas préparé
à ça.
Ouais.
On n'est pas préparé à ça. Moi, je sais même pas quoi faire à ce moment-là. Je suis complètement. Comme chaos, quoi, comme quand t'as reçu un boxeur.
Percute,
ouais, arrivent les textos d'anniversaire, des joyeux anniversaires, comme, complètement décalés. Je sais plus où j'en suis. J'en parle à mes parents. Et bon, mes parents, un peu côté petit, machin, toujours même à cet âge-là. finalement, il dit, ouais, tu peux pas rester comme ça, il faut que tu ailles porter plainte et que tu ne laisses pas la chose passer, quoi. Et mon père qui propose de m'emmener. Sur ça, je me dis, mais comment je vais sortir de la chambre, parce que je sens qu'elle est énervée, quoi. Et donc, il faut que je prenne les clés, que je parte de la maison, sans qu'elle sache que mes parents viennent, parce que sinon, ça va encore
empirer.
Mais j'ai une difficulté monstrueuse à vouloir sortir parce qu'elle a pris les clés et qu'elle ne va pas me les laisser. Et donc, je suis obligé de les reprendre avec de la force, mais sans violenté. C'est-à-dire ouvrir la main doucement, prendre les choses. Parce que tu n'es pas dans ce rapport. Prendre des coups pendant ce moment-là. Et arriver à encaisser tout ça et y ressortir de tout ça.
Et à encaisser physiquement, et puis encaisser...
Le plus dur, ce n'est pas le physique, hein, parce que ce n'est pas tant que ça. C'est l'émotion, quoi.
Ouais, ouais, mettre les mots là-dessus, quoi. Ouais. Je suis en train de me faire frapper par ma femme.
C'est ça, ouais. Ouais. Oui. Donc, je pars porter plainte. Mmh. Donc j'explique, hein, je pense que je suis effondré, je pense que je passe par des larmes et tout, parce que
c'est pas logique, c'est pas normal.
Non, c'est pas voilà. Franchement, je tombe sur des personnes qui sont correctes, qui prennent bien les considérations des choses.
Oui, parce qu'il y a parfois aussi parler de violence conjugale.
Voilà. Ils m'expliquent d'aller à l'hôpital aussi pour noter les choses, tout ça. Mais même si j'ai pas vraiment de traces, hein, pas trop de choses. Il se passe ensuite que, quelques temps après...
Elle sait, ton ex-femme, à ce moment-là, que tu vas porter plainte ? Elle pense que t'es juste parti.
Ouais, elle m'envoie des textos, d'ailleurs, pour te culpabiliser. Oui, t'es parti, t'as fait du bruit pour Chloé, tout ça. Elle en fera plusieurs fois.
On est sur une personnalité toxique, hein, on va pas...
Ouais. Quelques jours après, elle me dit, ouais, j'espère que tu diras ça à personne, sinon ça se passera mal. Et moi, je lui dis, bah écoute, c'est trop tard, de toute façon, j'ai déjà porté plainte.
Donc elle te menace.
Et là-dessus, elle me dit, ah mais si t'as porté plainte, moi aussi j'ai porté plainte. Parce qu'elle dit, moi aussi, tu m'as poussé, machin, t'as essayé de prendre... Parce que pour contrer en fait. Et c'est là que c'est très compliqué.
Là,
moi je connaissais rien du tout ça. La police m'appelle pour savoir si je suis d'accord pour s'il y a jamais une confrontation. Parce qu'ils vont... Mais moi je connais rien de tout ça. Hein. Donc je sais pas du tout comment ça se passe. Ils me disent, est-ce que je vous ai d'accord pour une confrontation? Mais je dis, pas de problème, je sais ce qui s'est passé. Ils la convoquent, mais je savais pas qu'ils allaient me convoquer juste après. Sauf qu'on a qu'une voiture. Commissariat, c'est pas à côté. Je suis avec les enfants. Ils me disent de venir. Mais écoutez, ma sœur n'est pas là. Mes parents sont pas là. Il y a personne. J'ai pas de moyen de voiture. Je pense même pas à ce moment-là à partir en taxi avec les enfants, avec Chloé qui est malade. Mais je dis, mais je peux pas. Et la policière prend ça comme une fuite. Et donc, laisse tomber le truc. Elle, à côté de ça, s'ensuit des mois de folie. C'est la catastrophe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je propose de faire une partie de jeu avec les filles. Mais moi aussi, je peux jouer. Viens, pourquoi tu veux t'accaparer les filles? Parce que j'ai. Ah oui! J'ai pas dit une chose importante. C'est à partir du moment qu'elle m'a frappé. Oui, j'ai même pas dit ce truc qui est super important. À la fin, quand elle m'a frappé, avant de monter dans la chambre de Chloé, je dis c'est fini, j'arrête, je divorce.
Votre histoire.
C'est-à-dire que moi, j'ai pris tout de suite la décision stop. C'est hors de question, quoi. Fini, de chez, fini. À chaque fois que je fais une activité fille, ouais, mais tu veux t'accaparer des filles, tu veux ceci, tu veux cela. Mmh. Elle veut venir, tout ça. À un moment donné, elle va même jusqu'à se mettre devant moi pour m'empêcher de passer presque. Je passe sur le côté, bon, elle est pas très souple, tout ça. Et comme je l'ai pas bousculée, elle va même se jeter sur le lit Chloé, où il y a une barrière, pour se faire mal. Moi, je fais même pas, je prête pas attention à ça. Elle revient, parce qu'elle fait style, bon, vous faites l'activité papa, moi je pas. Elle revient toute nue, avec les filles qui sont là en train de faire un jeu, je sais pas, on joue à croque-carotte. Et elle revient, dire, vous avez vu comme papa m'a fait mal et tout. Et là, je sens bien que ça vrille.
Ouais, ça part très loin.
Ça part très loin, je sens le truc. Elle part, Lise en pleurs, qui veut sa maman, je crois. Donc elle part avec Lise. Je préviens mes parents, je dis, il faut que j'aille au commissariat parce que je suis sûr qu'elle va porter plainte ou dire quelque chose. Il faut que j'explique ce qui s'est passé. Et quand elle revient, mes parents sont là. Elle gueule un peu, elle commence à faire un scandale à la porte, elle veut pousser mon père à l'extérieur. Et donc elle appelle au secours, il y a des gens qui viennent, il se trouve que c'est des Portugais. Donc mon père commence à parler, il y a ma grand-mère qui est encore présente en plus, ma grand-mère qui a de l'Alzheimer et qui, malgré ça, quelques temps après, elle se souvient encore de cet épisode. Donc elle était complètement hystérique. Et en fait, ça continue comme ça, à des moments donnés, même après mon téléphone, elle me l'a jeté, elle m'a sauté dessus. En fait, ça, on dort finalement plus au même endroit. Alors, moi, je me renseigne vis-à-vis d'une avocate, hein, comment faire. Le problème, c'est que si je quitte la maison, je suis considéré comme abandon. Ouais. Comme je suis un homme, c'est très compliqué. Parce que si c'est une femme, c'est très simple d'enclencher la procédure, tu es violenté. Mmh. Un homme, non. Parce que t'as la force, donc normalement t'es censé... Mais du coup, c'est plein de mois où moi j'étais sur le canapé, installé, avec la peur qu'elle me... Elle avait déjà fait des épisodes, moi je vais pas tout détailler, mais où elle menaçait, avant tout ça, de se couper les veines, d'aller chercher un couteau, etc., etc.
Donc tu avais peur pour ton intégrité
pour
physique.
Mon intégrité physique ou la sienne. Comment tu peux dormir dans des conditions comme ça? Tu dors sur le canapé, canapé où il n'y a pas de porte en fait. Donc je ne pouvais même pas m'enfermer, quoi. Donc elle pouvait venir quand elle voulait, quoi. Des mois comme ça, parce que ouais, voilà,
ouais,
j'ai perdu 10 kilos
ouais, c'est
en
ce
un mois.
Dis, ouais.
C'est pas, bon, je sais que ça ferait rêver un certain nombre de personnes. Mais...
Ou pas. Dans ces conditions,
voilà.
En tout cas.
Voilà, on enclenche un truc avec l'avocate parce qu'on ne peut pas continuer à vivre comme ça. Elle me dit qu'il faut trouver un appart, sinon on ne pourra pas accueillir vos enfants. Sauf que je suis indépendant, je ne suis pas locataire, je n'ai pas d'historique. Voilà. Donc, trouvé en 5 semaines, mais j'ai fait que ça. J'ai tout remeublé pour partir de
zéro.
Donc, ça fait 10 ans que vous êtes marié, 13 ans que vous êtes en couple. Partait d'une feuille vierge. J'ai réussi à récupérer quelques affaires, difficilement. Je me réinstalle.
Comment elle prend ton départ de la maison?
Alors, non, elle veut que je dégage, de toute façon.
Elle veut que je dégage.
Que je l'ai trahi, en fait. Tu vois, en portant plainte. Ah ben oui, c'est moi qui, sur Facebook, elle avait mis, ce soir-là, je lui ai fait une petite gifle et il en a fait tout un... Voilà.
Mais pas de petite gifle.
J'ai fait une petite gifle et la famille en question, elle est complètement. Voilà, elle est contre moi ou machin.
Non, mais il
voilà.
n'y a pas de petite gifle.
Non, voilà.
Il n'y a,
oui,
a pas
mais,
de gifle.
Voilà, y a pas, y a
pas de
deux...
petite ou grande. C'est...
Non,
on n'en donne pas, en fait.
On n'en donne pas. Ouais, non,
Waouh. Donc tu pars. Donc c'était en quelle année?
2015. Hein. 2015, on commence la procédure express, un mois, arrive au jugement, donc il accepte la séparation. Pour la garde des enfants,
ben,
comme Chloé est malade. Ils disent « Ah, c'est peut-être pas une bonne idée qu'elle soit en résidence alternée.
Ah. »
Les boules, je peux te
ah,
dire.
C'est dur.
C'est dur parce que c'est moi qui étais au front. Et là, tu encaisses. Mais quand même, mon avocate avait demandé un truc subsidiaire. C'est si c'était pas résidence alternée, au moins du samedi au mercredi, une semaine sur deux. Voilà, j'obtiens ça avec une pension alimentaire
évidemment.
Très copieuse. Bon, moi, ce qui me comptait, c'est mes enfants. Donc déjà, j'étais content au moins de les avoir.
Vous avez samedi ou mercredi une semaine
sur deux. Ça reste pas lourd quand vous aviez l'habitude de les avoir tout le temps.
Bah c'est ça. Mais t'as pas demandé la garde totale?
Fameux Tariq, qui est devenu médecin, qui était en terminale avec moi, m'a dit parce qu'il m'a dit mais ta femme ça va pas quoi. Il faut peut-être tu extrais tes enfants de tout ça. Mais elle est bienveillante avec mes enfants dans l'ensemble quoi, on va dire. Et moi je pense que c'est important pour des enfants d'avoir les deux parents quoi. Donc, je ne me voyais pas...
Leur enlever leur maman.
Ouais, et puis, non, je ne me voyais pas, quoi. Je me mets à la place, mes enfants, ils ont envie d'avoir les deux parents, quoi. Point. Mm-hmm. Mais je me suis posé la question, quand même. C'est pas si simple que ça. Hein.
Donc, tu as cette garde.
Ouais. Donc, pendant un an, que vous ne voyez pas toute la semaine, vous ne comprenez pas tout ce qui se passe. Tu passes d'un total à qu'une dizaine de jours par mois.
Elles sont petites, en plus.
5 et 6, d'ailleurs. Ouais, 5 et 6. C'est horrible, d'ailleurs. Le jour de l'anniversaire de Chloé, qu'on est encore ensemble, le 10 avril, donc c'est pour ça que c'est après, ouais, c'est ça. Elle lui refuse de lui donner ses cadeaux parce qu'elle a fait une activité avec moi.
Oui, alors tu dis qu'elle est bienveillante.
Oui, non, mais voilà. Mais elle a des problèmes. Elle a des problèmes parce que, en fait, à partir du moment où je suis devenu l'opposant, avant j'étais le bienveillant, celui qui la soutient, je suis venu les mis à battre, quoi. Tout. Et si tu es pour moi, bah, t'es contre elle, quoi.
Oui, mais j'ai l'impression qu'elle fait pas la part des choses entre le père et l'homme.
Non, okay. non, pas du tout.
Comment toi, tu te reconstruis
alors,
en tant qu'homme?
Très, ouais. Alors très compliqué au départ en tant que parent, mais waouh.
T'es soulagé?
Ouais, je sors de l'enfer. En fait, je m'en rendais pas compte parce que j'ai pas trop détaillé, mais petit à petit, l'atmosphère était devenue pesante, ça allait pas, il y avait plus de vie.
De ce que tu racontes, on imagine.
Et,
oui, effectivement.
Et en fait, mine de rien, au fil des ans, j'avais pas raconté, mais elle me reprochait, par exemple, quand j'appelais mes copains. L'un des médecins nous avait dit qu'elle était borderline, en fait, voilà. Borderline, mais bon, que c'était plus compliqué, il faut estimer par un psychiatre. Moi, ce que je sais, c'est que...
voilà, une personne était toxique, en tout cas. Hein.
Ouais, il y a une certaine toxicité. Je pense que c'est surtout quelqu'un qui n'est pas bien.
Ah, il y a une grande souffrance. J'imagine qu'il y a un terrain familial compliqué,
ouais,
bien sûr.
Une histoire, elle a un demi-frère. Donc elle ne connaît pas l'origine du père. Sa mère n'en a jamais parlé. Donc, il y a un secret... On ne sait pas du tout.
Non, mais c'est pour ça que je pense que quand tu lui as donné le doute sur Lise, ça a dû remonter chez elle quelque
peut-être,
chose de très violent.
Je ne sais pas. Peut-être. C'est possible. Mais c'est un secret.
Mais donc, du coup, toi, tu reconstruis
comment? Moi, je me reconstruis. Alors, tout bêtement, je commence à ressortir. Ouais, ma famille. La famille, mes potes. Ils m'ont fait des lettres pour me dire que j'étais à mon papa, que je faisais bien les choses.
Ça a dû être très...
Ouais.
Très...
Je commence à ressortir, à refaire du roller. J'avais fait beaucoup de roller dans les années 2000. Et... Waouh! Franchement, j'ai l'impression, je me suis au mois de juin, la sensation de liberté. Alors, je ne pense pas encore aux filles et tout ça, machin, mais juste à profiter. Oh, je peux sortir. Je commençais à ressortir, à aller danser en soirée. Waouh, mais il y a des gens qui vivent, qui sortent.
Reprendre tes activités.
Ah ouais, mais à artisser le lien social et tout. Waouh. Et là, je commence à... Alors, je crois que je m'étais inscrit quand même sur les sites de rencontres avant, pendant un moment donné, pour voir si j'avais du succès.
Pour l'ego, ça, c'était
ouais,
pour toi.
Mon ego. Ouais, mais pas, voilà, pas plus que ça. Je commence à vraiment revivre et de redraguer. Je me souviens d'une nana qui m'avait... Ça, qui ça n'a pas marché, mais à qui on s'est daté, on a fait des dîners, tout ça. Bon, c'est resté une amie, voilà.
Mais bon, au moins, ça te remet
dans
le game, quoi.
Ça me remet dans le game. Donc, je fais quelques rencontres, mais ça n'aboutit pas. Et puis, lors d'un de mes déplacements, les frais ne sont pas pris en charge, pas comme d'habitude, tout ça. Et finalement, je vais prendre un logement, un Airbnb chez l'habitant, donc un canapé. Et quand j'arrive sur place, on commence à discuter avec la nana. Et super fluide.
Super feeling.
Petite blonde, sympa, tout ça. Et on a l'impression, on est sur notre petit nuage. Paf, j'embrasse, quoi. Alors, je me dis, je réfléchis parce que je dis quand même, si ça marche pas, je suis à la rue.
Bon.
Je suis à la rue. Avant ça, elle me propose, tiens, elle fait des activités, elle me propose d'aller, elle fait de l'escrime, voilà, tester des machins, tout ça.
Ah oui, donc très
donc,
cool.
Donc, il y a vraiment très cool. Et franchement... voilà, elle avait fait beaucoup de le surcoffing, elle avait voyagé en Amérique du Sud, surcouf, je connais pas. Ouais, okay. Ouais. Et on commence à s'embrasser tout ça, mais pas plus, parce que déjà c'est un peu particulier,
c'est un peu délicat. Oui,
c'est un peu délicat parce que d'habitude quand tu rencontres quelqu'un, t'es pas tout de suite chez la personne,
c'est ça, tu partages pas la salle de bain,
non,
et
voilà,
et quoi,
du coup c'est plus facile mais plus difficile en même temps, ouais, parce il faut que chacun aussi puisse, voilà.
Garde un peu
donc
ça.
Donc on garde, voilà. Le lendemain, elle pète un peu un câble, en tout cas, parce qu'elle me dit, ouais, je connais même pas ton nom, machin. Elle dit, je sais pas qui tu te souviens. Ça, en fait, ça partait un peu. Et moi, je dis, voilà, attends, je viens de tel endroit. Je la rassure. Voilà, j'ai senti que c'était juste un peu naturel parce que tu vois, je suis chez elle, en fait. C'est génial. Je sors du. Ça fait presque un. Pas un an, mais pas loin que je suis en séparation. Là, je tombe sur cette histoire. Puis voilà.
Ouais, trop bien.
Trop bien. Donc, sur les 3 jours, on n'ira pas plus que s'embrasser, on dormira même pas ensemble. Parce que, voilà, je pense que, je sais pas, il y avait...
Mais ça se comprend, ok.
Ouais, ça reste ce truc. Et puis, je reviens.
Elle te remet un peu, ouais.
Elle est sur Lille, moi sur Paris. Donc, c'est pas très loin, hein, voilà. Mm-hmm. Je reviens et alors là, elle me saute dessus direct, quasiment. Trop bien. Ça se passe super bien. Au lit, ça se passe, mais génial. Alors que moi, mon ex, c'était... voilà.
Ouais.
Mais alors là, Ça reste vanille, mais vanille de qualité.
Voilà, la vanille de qualité, c'est voilà. Ça qu'on veut.
et puis, alors moi, je n'avais pas de mission. Donc, et elle travaillait le lendemain, quoi. Et je reçois un petit texto en me disant, ouais, c'était super cette nuit. Alors moi qui étais complètement dénigré par mon ex et tout ça, je me sentais comme une merde, comme nul. J'avais pas du tout confiance en moi. J'étais au fin fond des pâquerettes, quoi. Faut pas dire au fin fond du trou, comme on a déjà vu. Ok.
Et alors là, la plus belle déclaration.
Alors là, waouh. Ouais. Et en plus, je vois plus elle m'a expliqué, voilà, que je suis arrivé habillé, pas très long comme ça, avec le petit chapeau, tout ça. Elle m'a dit que ça avait fait un effet. Et en plus, elle a exprimé qu'elle m'avait trouvé beau.
C'était la première fois ?
Et je crois, ouais. Parce que mon ex m'en a pas trop exprimé, quoi.
Donc c'est la première fois.
Ouais.
Alors, qui te désire, qui te trouve beau.
Ah ouais, c'est génial.
Ouais, total.
Ah ouais, là, j'ai kiffé.
Et donc cette histoire ?
Ouais, alors ça a duré un petit peu, quelques mois, pas beaucoup. Et le problème, c'est qu'elle se voyait pas venir... en région parisienne. On n'avait pas du tout évoqué ça, mais elle était en train de réfléchir à ça. Elle disait, t'as déjà des enfants, elle avait peut-être 5 ans moins que moi. Toi, t'en as déjà, tu en auras peut-être plus. Alors qu'elle ne m'a rien demandé. Alors sur le moment, je ne suis pas sûr que j'en ai voulu parce que je n'étais pas après coup aujourd'hui. maintenant, un peu tard. Mais je me dis, tiens, c'est dommage. Je comprends maintenant mes parents, mon petit frère qui a 17 ans d'écart avec moi. C'est tellement beau, les enfants. C'est tellement waouh. Et je me dis, mais bon.
Mais bon, après, voilà, tu peux pas refaire l'histoire.
Non. Mais bon.
Donc, cette histoire, en tout cas, te remet le pied à l'étrier.
Et elle n'est même pas venue une seule fois chez moi, en fait. Et quelques mois après, je rencontre Nathalie. Nathalie, super. Soirée bar, OVS, tout ça. Subtilement, elle a réussi à venir me parler en arrivant à faire croire que c'est moi qui suis venue à le parler.
Tout un art.
Et c'est elle qui est venue me voir, en fait. C'est elle qui m'a repéré. Elle, elle était déjà avec quelqu'un à l'époque. Donc, okay. On discutait comme ça. Et je sais pas, peut-être un mois et demi après, on s'est débrouillé pour retourner ces 10 soirées un peu récurrentes à la même soirée, sans se combiner. On n'avait pas échangé nos coordonnées. Et on espérait l'un comme l'autre que l'autre soit là. On a discuté toute la soirée, tout ça. Rien de particulier qui s'est passé, mais on a vraiment discuté ensemble. Je l'ai raccompagnée, qu'elle soit en sécurité, ça l'a touchée, ça je sais. Ça s'est fait petit à petit parce qu'elle avait 8 ans de plus que moi, pour le coup. Mm-hmm. Souvent, on est plus jeune, mais c'était pas un critère pour moi. Ma femme était mon ex-femme était plus âgée aussi. Et là, franchement, l'osmose, ça se mm-hmm. passe. Ça passe très, très bien. Elle rencontre mes enfants. Ça se passe bien avec mes enfants, tout ça. Ça se passe bien au lit aussi. Je me souviens de somptueuses fellations, de caresses qui en fait elle me dit en plus que tout ce que je lui fais elle adore toutes les caresses, les attentions, la douceur. Elle a jamais vécu ça en fait. Elle dit mais c'est génial quoi. Elle savait pas qu'on pouvait être aussi doux avec quelqu'un. Moi ce qui me semble normal quoi. Mm-hmm.
Enfin en tout cas c'est la
c'est ma façon.
Et
ouais,
vous trouvez votre équilibre.
Ouais franchement on est bien. Comment dire, à l'époque ses amis, parce qu'elle n'a pas une grande famille, trouvent que ouais, c'est génial pour elle, et tout ça, tout se passe bien. Arrive à un moment donné, en fait, c'est un peu compliqué avec les enfants.
Avec tes enfants ?
Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours l'idée de mes enfants, c'est le plus important. Hein. Même si ça se passe plutôt bien comme ça, mais ils ne sont pas forcément en train de lui dire toujours bonjour, bonne nuit. Elle a du mal à trouver, elle n'a pas ça forcément.
Elle ne trouve pas sa place.
On vient souvent chez l'un, chez l'autre. Voilà. À un moment donné, elle me dit, ah ouais, mais c'est pas normal, il devrait me dire bonne nuit, tout ça. Il faut que tu aies ton espace aussi, parce que le soir, il y a beaucoup l'espace câlin, tout ça, avec mes enfants. Donc ça prend un peu de la place. Ça prend de la place. Tu as raison, mais pour l'instant, l'important, c'est mes enfants.
Ouais.
Je ne veux pas trop les perturber. Il faut aller petit à petit. On se met d'accord là-dessus, mais sauf que deux jours après, elle revient encore là-dessus. C'était dans une période où j'étais un peu chargé au niveau boulot.
Il n'y avait pas la place.
Et moi, je dis, j'ai pas encore envie de me prendre la tête. Je suis pas possible. Et je stoppe tout. Alors, je stoppe tout, je suis en larmes après.
Ah, bien sûr.
Parce que je stoppe, mais je l'aime. Mais c'est pas possible.
Pas à ce moment-là, en tout cas. Les filles sont trop petites, demandent de la place, de l'attention.
Ouais, et je pense que je suis pas aussi, à l'époque, je suis pas en capacité de comprendre sa place à elle. C'est son ressenti à elle.
Il faut déjà que toi, tu arrives à trouver ta place avec les filles, donc c'est compliqué.
Et je ne comprends pas, en fait,
sa revendication.
Je ne comprends pas qu'elle a besoin aussi de se construire dans la famille avec nous, avoir sa place.
C'est pas facile d'être beau-parent.
C'est pas facile, et qu'en fait, elle a sa place avec moi.
Mais c'est compliqué hein, quand tu as des enfants.
Et ça s'arrête tous les deux en larmes. Hein.
Bah ouais.
Ensuite, je continue, quelques petites rencontres, voilà. Je me souviens de mon premier plan d'un soir aussi. Pour le coup, ça va choquer des gens parce que c'est ma première levrette. Voilà, ça va choquer parce que ça arrive tardivement. Voilà. T'es franc, la fille. C'est pas mon truc. Continue donc avec une autre personne après que je rencontre et on passe la soirée à discuter ensemble. Et finalement, c'est qu'à la fin de la soirée, on s'embrasse plus ou moins. On dit, ah, ça fait bizarre, on est un peu copains. Mmh. Et finalement, on va peut-être pas le faire. Ouais. Et elle m'en invite chez elle, mais plus en mode comme ça, là, une fille, tout ça. On dit, ouais, plus elle est chez elle, une fille, on se passera jamais rien. Et ben, n'empêche que dans les conditions plus compliquées, alors qu'on était tout seul, tous les deux, il ne s'était rien passé, ben là, la fille dormait, elle était une petite, hein, et hop, c'est parti. Génial aussi, parce que, alors elle, beaucoup plus débridée, mm-hmm. Beaucoup plus. Qui aime aussi contact, voilà. Sympa, ça se passe bien. Pareil, rencontre mes enfants. Mais elle était très sur moi au début, et après, beaucoup d'indépendance qu'elle voulait. Ben moi, ça a été très dur parce que je me suis senti rejeté. J'ai mal réagi aussi parce que... Et après, du coup, ça s'est arrêté là. Elle était très tournée sur elle-même, donc ça n'a pas marché. Ça, je l'ai compris plus tard, parce que j'étais mal, mais après, j'ai compris plus tard. Puis après, une autre relation, une soirée, ça discute, tout ça, ça se passe bien.
Et
Zoom. Je n'ai pas repéré qu'elle était fumeuse, par contre. Petit appart sur Boulogne, un appart de bonne, quoi, un peu compliqué.
Ouais.
Et ça s'est bien passé, mais pas sexuellement.
Ah,
redéstabiliser, on me dire que finalement c'est pas à chaque fois que c'est. Quoi, ça dépend de la chimie avec la personne. Et pourtant, avec cette personne qui était sur Boulogne, à qui je discute encore, voilà, on est toujours amis, il n'y a pas de problème. Ben, on s'attirait beaucoup.
Ah, l'alchimie des peaux, ça se contrôle pas.
Il y avait la chimie des peaux, des corps, mais pas du sexe.
Ça arrive.
Et je savais pas pourquoi.
Ben, ça arrive.
Et
on ne peut pas tout expliquer, tu sais.
Par contre, il y a une chose sur laquelle j'avais laissé de côté. Qui était compliqué, je vais revenir sur mon grand-père.
Qui est le fameux secret de famille avec ta mère.
Ouais, je pense que tu as compris.
Ouais.
En fait, j'ai appris, mais il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, que ma mère s'est fait violer par mon grand-père.
Elle a été abusée par son père.
Voilà. Et je l'ai appris très tardivement. Et donc, ça m'a un peu expliqué des choses aussi, mon attitude vis-à-vis de ma mère, de dire qu'il faut être correct vis-à-vis des femmes, tout ça. Je me souviens souvent, quand j'étais enfant, même à reprendre mon père s'il n'était pas clean vis-à-vis des mots, parce que mon père, des fois, il n'est pas très subtil. Mm-hmm. Ouais, ma femme était toujours fine, et puis à un moment donné, c'était la catastrophe, elle a pris du poids. J'ai dit, super, c'est sympa, c'est subtil, voilà. Et en fait, j'ai toujours eu cette attitude. Plutôt,
très protectrice avec ta mère.
Avec les femmes, d'une manière générale. Et ça a été très dur quand j'ai eu le conflit avec mon ex, parce que j'ai eu le pendant, parce qu'on n'a pas détaillé, mais quand vous essayez d'être, comment dire, la lutte pour la garde, en fait, quand vous êtes papa, c'est dur. Et là, autant que je ne supporte pas le côté de déséquilibre, où les femmes sont maltraitées, autant je suis tombé dans l'inverse. Oui, c'est-à-dire qu'en tant qu'homme, tu es considéré comme le méchant,
personne.
La mauvaise personne. Et j'ai entendu, j'étais beaucoup dans des soirées, des associations de... Il y a une association sur Paris pour les papas. Mm-mm. À côté de ça, moi, j'ai eu la chance parce qu'après un an, il y a eu quand même... mon avocate avait réussi à demander ce qui est une enquête médicale par rapport à la... Et psychiatrique
voilà. De ton ex-femme.
Et globale, de toute la famille. C'est basé sur toute la famille. Et au bout d'un an, j'ai eu la résidence alternée. Et donc là, je suis en résidence alternée avec mes enfants.
Donc, tu as une semaine sur deux tes enfants.
Ouais. Maintenant... les rapports sont un petit peu plus sereins. Je pense que le moment où elle a eu un copain aussi,
ça c'est un petit peu.
Alors on n'a plus, ça n'a pas duré longtemps. Malheureusement.
Mais au moins ça l'a.
Malheureusement, j'aurais été prêt à le payer. Enfin, tout ce qu'il faut qu'il reste. Parce qu'elle était tellement plus sympa. Il faut que tu restes, faut que tu restes. Mais bon, il n'a pas aussi enduré que moi. Donc, voilà. Mais,
en tout cas, c'est plus serein.
Non,
maintenant.
C'est plus serein.
Puis les filles sont plus grandes.
Ouais, les filles sont plus grandes.
Ils ont 11 et 13 ans.
C'est pas toujours facile.
Bien sûr.
Mais,
puis l'adolescence. Hein,
l'adolescence, non, voilà. Mais c'est mieux.
Tu parles de sexualité avec tes filles ?
Alors, avec mes filles, je parle, déjà, je leur ai expliqué un petit peu la reproduction, en fait, voilà. J'ai titillé des fois, t'as pas envie que c'est un garçon, quoi, mais sachant que c'est pas le cas encore, voilà.
T'en sais rien.
Mais ça arrivera, que c'est normal.
Mais t'essaies
de... c'est une belle chose. Et en fait, j'essaie de faire un petit peu le contraire de ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que moi, on m'était complètement occulté tout ça, et du coup, ça a été dur. C'était difficile.
J'essaie en tout cas de les accompagner dans l'acceptation.
Sans faire de jeu de mots sur le fait que ça soit dur.
Voilà. Non, mais tu les accompagnes dans l'acceptation de leurs sentiments, dans l'expression de leurs sentiments.
Ouais, j'essaie de leur dire que c'est normal. Je leur ai expliqué un petit peu comment ça se passait, les graines et tout ça, mais en disant les graines, pas les graines. Que le papa, il met une graine dans le ventre de la...
Appeler ça un spermatozoïde.
Et après, maintenant, ils en sont à ça où on peut. Mais j'ai envie de me libérer. Alors, je ne sais pas parler. Et j'ai fait des choses aussi pour essayer de me libérer. J'ai avec une de mes amies qui je ne vais pas donner le prénom parce que... avec une de mes amies, qui a commencé à faire des rencontres libertines, aller dans des saunas et ce genre de choses. J'ai passé le pas d'aller...
Tu l'accompagnes en club libertin.
Ouais.
Waouh.
Alors, en fait, moi, j'avais une grosse difficulté à aller vers l'autre, tout ça. C'est un petit peu, je comparais ça un petit peu quand j'étais voir aussi la
prostituée, bien sûr.
C'est essayer de me choquer pour
casser. Ah là, tu vas dans un environnement. Ouais.
Et bon, on a été un soir où il n'y avait pas beaucoup de monde parce que c'était une veille de jour férié ou je sais pas quoi. Bon, c'était pas forcément le...
Déjà,
donc, t'arrives, t'es nu. T'es nu, alors t'as la petite serviette, tout ça, voilà, mais tu vas après patauger dans l'eau, faut faire abstraction de tout ce que c'est, voilà. Mais voilà, tu vois tous les coins câlins, les espaces, tout ça.
Mais c'est génial de t'être projeté.
Mais moi, je suis incapable d'aller dans tout ça, quoi. Et c'est pas forcément...
T'as été coopté par ta pote, quoi.
Mais le fait, ça m'a forcé à pas rester dans ma zone de confort.
Bien sûr.
Alors déjà, me mettre nu, c'était compliqué, et je pense que maintenant, je l'assume. J'assume plus facilement. Et je pense que j'avais besoin de...
Et aujourd'hui, t'en es où alors, amoureusement ?
Je suis tout seul.
Ouais.
Je pense que j'ai... je suis sur les sites de rencontres, tout ça, mais je sais pas, j'ai moins la motivation de ce truc-là. La Covid est passée par là. Ça a été au début, mais là, je me suis beaucoup isolé. Tu me vois sans masque, mais il y a une époque, j'aurais eu du mal. Voilà. Après chacun son...
T'as eu peur ?
C'est compliqué parce que ma maman, pendant ces périodes aussi, juste après le divorce, elle a eu un cancer, elle a failli mourir. En 6 mois, on lui avait dit que c'était condamné, elle devait rentrer à la maison
Partir.
Et finalement, il y a une rémanescence, Un an après, elle a pu se faire opérer et elle est encore là. Avec beaucoup de... Elle est beaucoup affaiblie, on lui a enlevé des trucs et tout ça.
Oui, mais du coup, elle n'est pas dans les personnes très à risque.
Et donc, elle est partie dans les personnes à risque. Chloé, les épileptiques sont aussi à risque parce qu'il ne faut pas qu'ils aient de fièvre.
Oui, ouais.
Et donc, du coup, j'étais...
Donc, c'est pour ça que tu étais stressée.
J'étais pas pour moi,
en fait. Pas pour toi, mais pour ton entourage. Ouais. C'est très louable.
Et complicié, je me suis un peu beaucoup fermée. Il faut que j'arrive à ressortir,
bien sûr.
Et aussi pour mes enfants, parce qu'on n'est pas beaucoup sortis.
Que, Gabriel, tu te souhaites pour ta sexualité future ?
La réenclencher, déjà. Voilà.
Déjà,
je pense qu'il faut déjà que je, si j'ai un truc que je me souhaitais, en fait, me remettre dans le... Je me suis mis de côté et je veux me remettre dedans. Peut-être moins de tabous, mais pas pour se laisser emporter, laisser vivre.
Te laisser porter ?
Laisser porter, vivre le moment.
Et comment tu t'es avec toi-même maintenant ? Quand tu te regardes dans la glace.
Non, ça dépend des jours.
Comme tout le monde.
Il y a des jours où je suis vraiment au fin fond, quoi, où je ne suis pas content vis-à-vis de moi parce que je trouve que je ne sors pas assez de ma coquille. Moi, je pense que je suis une... J'aime pas dire ça parce que... j'ai un problème par rapport à... Comme mon père m'a souvent mis sur un piédestal et que j'ai compris après que j'étais à un moment même prétentieux. Je sais que je peux très vite tomber dans ce travers-là et que j'aime pas du tout ça. Et du coup, j'ai plutôt développé le contraire après. Je pense que je suis une belle personne. Voilà.
T'as le droit de le dire. Hein,
mais j'ai du mal parce que c'est pas légitime. T'as pas le droit de le dire toi-même.
Si tu t'aimes pas et si t'as pas un regard juste sur toi.
Je pense que je suis une belle personne avec des gros défauts aussi. Hein. Ouais, je pense que j'ai envie de re-aimer. Mm-hmm. Voilà. Alors moi, je suis quelqu'un qui me laisse porter. Hein. C'est-à-dire, je préfère souffrir que ne pas vivre.
Voilà. Je comprends.
C'est-à-dire que malgré tout ce que j'ai vécu, les difficultés, les choses qui ne sont pas toujours drôles, quand je pense à tout ça, ben, je préfère ça que la période où je n'avais rien vécu.
Je comprends.
Et je suis toujours prêt à tenter la chose, quitte à... Des fois, après, finalement, peut-être que je tente trop. C'est peut-être des histoires qui, finalement, sont peut-être pas... voilà. Mais c'est toujours un bon moment. Quelque chose dans lequel tu vas échanger avec des personnes, où tu vas avoir une sensibilité, quelque chose qui va se créer, quoi. Et c'est ça, quelque part, la richesse, quoi. Quel que soit ce que tu fais, quoi. Ouais, peut-être ce que je me souhaiterais, c'est peut-être plus d'aller oser, de casser le truc, de laisser porter par le moment et d'oser un peu plus. Ouais, ouais, je suis pas sûr, je sais pas si j'y arriverai.
En tout cas, c'est déjà super de te le souhaiter parce que c'est déjà un pas en avant d'en avoir conscience.
Faut que j'arrive à mettre en...
T'aligner un petit peu avec
aligner
tout ça.
Aligner tout ça, ouais. Et comprendre que je suis pas plus ou moins qu'un autre et que je peux y arriver autant que ça, voilà. Ce que je me souhaite, c'est de vivre, hein. Tout simplement.
Ce sera quoi le mot de la fin, Gabriel ? Après, alors je sais pas combien il restera à l'enregistrement.
Ouais, parce que je sais quoi. Là, c'était dur pour toi.
Je pense que tu fais partie
des plus longs,
plus long que j'ai jamais enregistré.
Ça va être dur pour toi. Le mot de la fin, c'est vivez vos émotions, vivez vos envies, prenez le temps de vivre tout ça. Profitez-en, on n'a qu'une seule vie et elle est merveilleuse. Voilà, tout ce que j'ai à dire.
Merci Gabriel. Merci pour votre écoute, merci à Gabriel, sa sincérité. C'était un épisode qui a été particulier parce que je ne connaissais pas du tout l'histoire que Gabriel allait me raconter. On avait un peu échangé, mais à travers les mots qu'il m'avait envoyés, je n'avais pas compris l'ampleur de la relation toxique qu'il a eue avec son ex-épouse. Donc ça a été une surprise pour moi, il a fallu un peu gérer ça. Comme je vous l'ai dit en introduction, le montage a été très très long et j'avais besoin de vous restaurer la personnalité de Gabriel, donc j'ai gardé certains exemples, quelques anecdotes, mais je n'ai pas pu tout garder. J'ai essayé d'être juste aussi dans les propos qu'il rétribuait. Enfin voilà, ça a été un exercice très fatigant.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns, so you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1.
Only from Rust-Oleum.
Je vous le confesse, mais en tout cas, je suis ravie d'avoir pu vous proposer ce témoignage et cet épisode que je trouve très important. N'hésitez pas à venir en parler avec moi sur Instagram ou par mail. Enfin voilà, vous savez où me joindre, il y a tout dans la description qui accompagne l'épisode. N'hésitez pas aussi à partager le podcast, hein, c'est grâce à vous qu'il vit et qu'il grandit, et j'ai besoin de vous aussi pour tout ça. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode d'On the Verge.